Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora. Et moi, Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici, on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode.
Coucou Isadora, coucou Sokona.
Hello.
Bienvenue à nouveau pour la deuxième fois sur dans notre podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les personnes qui ne le savent pas, on a enregistré un premier épisode de podcast avec Sokona en décembre 2020. Enfin, c'est toi et c'est que Isadora qui l'avait enregistré. Oui. C'est l'épisode numéro 23 qu'on mettra en description de l'épisode parce qu'on ne va pas reparler de toute la genèse de ton entreprise Sokup. Sinon, l'épisode que tu as fait avant ne servait à rien.
Mais tu peux déjà, au moins, pour ceux qui n'ont pas écouté et qui ne l'écouteront peut-être pas, est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu fais de chouette dans la vie, professionnellement et personnellement?
Oui. Yes. Alors, ce que je fais de chouette dans la vie, c'est que je vis ma meilleure vie. Je kiffe cette expression parce que je me dis, on vit qu'une fois, il faut tout donner. Et surtout, c'est vrai que là, depuis quelques temps, ça va être un peu glauque dès le début. Ils vont se dire, oh là là, c'est quoi cette nana? Mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense beaucoup à la mort. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être que je vieillis et je sens que, mais c'est trop bizarre. Et tous les jours. En fait, avant, j'y pensais pas tous les jours. Et là, tous les jours, il y a un moment dans la journée où je pense à ça. Et je me dis, j'ai vraiment envie que quand j'arrive à la fin de ma vie, puisque je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, que j'ai pas de regrets, que j'ai tout vécu à fond, que je me suis pas dit « et si ». Donc voilà, ce que je fais, ce que j'aime, c'est vivre ma best life.
Et comment tu fais pour vivre ta best life? Dis-nous, parce que moi, j'aimerais trop vivre ma best life aussi. Dis-nous comment tu fais pour...
Alors, déjà, je me mets plus de limites. C'est-à-dire que je me dis, je suis capable de faire énormément de choses. Et si j'ai envie de faire quelque chose, je vais tout de suite trouver des solutions à comment je mets ça en place, comment je fais. Après, des fois, il y a des loupés. Hein. Par exemple, à un moment, je me suis dit, oui, c'est bon, je vais me mettre au sport. À mon âge, quand je monte un étage, je suis KO, etc. J'étais hyper motivée. Ça a tenu 2 mois. J'ai arrêté. J'ai dit, allez, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et j'arrête, je recommence d'autres choses, etc. En fait, j'expérimente la vie et je me force et je me laisse plus de limites. Et aussi, grâce au lâcher prise, où avant, j'aimais bien que tout soit carré, tout soit comme ci, comme ça, etc. Et maintenant, cool.
Trop bien. Et en fait, génial, ça. Je voulais commencer l'épisode et j'ai oublié, mais c'est intéressant. Comme ça, on reste dans l'énergie de positivité et de la fête, parce que tu nous as dit qu'aujourd'hui, c'était les 6 ans de ton entreprise.
Oui.
Donc, joyeux anniversaire.
Merci.
Joyeux anniversaire, Sokup. Happy birthday to you. Ah, moi, toi, je partais directement sur le happy birthday de Matt Houston. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je je connais pas votre
happy truc. Happy birthday. Et que tu sois après, c'est que tu sois en prison à Fresnes ou je sais pas quoi.
Ah oui, j'avoue,
c'est un peu c'est un peu plus glauque.
Oui. Okay.
Bon, d'accord.
Mais merci les filles. Ouais, 6 ans.
Incroyable. Est-ce que quand tu as commencé il y a 6 ans? Tu te disais que ça allait durer? Est-ce que tu le voyais quelque chose comme quelque chose de global comme ça l'est aujourd'hui, c'est-à-dire global, je parle à l'américaine.
Oui, mondial.
Global. Est-ce que tu pensais que ça ferait quelque chose de mondial comme ça, un tel succès, parce que Sokup c'est quand même à mon sens une des marques les plus connues niveau culotte menstruelle. Qu'est-ce que tu pensais il y a 6 ans quand tu l'as ouvert? Est-ce que c'était un petit business comme ça, comme nous, on a tendance à faire, on fait, puis on se dit, ce sera un tout petit, voilà, on va pas aller, ouais. On va être timide. Ou est-ce que toi, tu voyais déjà quelque chose, tu voyais loin déjà?
Bah, du coup, il y a eu deux choses. La première des choses, c'est vraiment quand j'ai commencé, bah, j'étais salariée. Le dernier poste que j'ai occupé, c'était un poste d'assistante sociale à l'hôpital. Et franchement, j'étais épuisée par le social. Je trouvais que le système était maltraitant, autant pour les usagers que les professionnels, qu'il n'y a rien qui allait. Et en fait, avec nos moyens, on était très, très limités. Donc, j'ai cherché autre chose. Et j'avais aussi cette soif de liberté où je me suis rendu compte finalement que le salariat, ce n'était pas pour moi. C'est bien un temps, mais je sais que je pouvais pas faire ça toute ma vie. Et du coup, j'avais envie d'entreprendre, etc. Et au moment où j'ai eu l'idée de SoCup, au départ, je me suis dit, bah, si ça fait des compléments de revenus, c'est super. Parce qu'assistante sociale, très honnêtement, je crois que je gagnais quoi, 1500, 1600 euros par mois net. Et du coup, je me disais, bah, franchement, si j'arrive juste à faire 500 euros en plus, bah, je change un petit peu mon lifestyle. Peut-être que j'aurai une voiture un peu plus belle. Je pourrais aller peut-être en vacances un peu plus profiter quand j'y vais, etc. Donc au départ, je m'étais dit, 500 euros, c'est très bien. Et après, bah, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de limite. Et en moins d'un an, c'est vrai que j'ai commencé à voir le truc beaucoup plus gros parce que les clients étaient là. En fait, il y a eu des choses positives qui m'ont motivée à me dire qu'en fait, bah non, on peut faire beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin. Et ensuite, là, j'ai vraiment eu une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus grande sur la marque où je ne sais pas pourquoi je m'étais donné cet objectif du million. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça m'est venu ce truc, mais ça me paraissait… voilà, je me suis dit, allez, c'est le goal, c'est le goal. Et ensuite, quand j'ai commencé bah, avec mon mari qui m'a permis en fait, de décortiquer le truc, il m'a dit, mais en fait, 1 million, si on marque bien sur une année, il faut qu'on fasse 3000 euros par jour. Et si on fait 3000 euros par jour, on atteint cet objectif. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça. Et ça m'a paru tellement réalisable que, en fait, on s'est concentré sur ça. Et puis après, ça a été fait en 2020, vraiment très rapidement, avant la fin de l'année. Et du coup, bah, quand je suis arrivée à ce truc-là, je me suis dit, bah, en fait, le soufflet est retombé. Je me suis dit, ah, c'est ça. Et finalement, j'ai beaucoup plus apprécié l'objectif, le fait de me dire tous les matins, ah non, hier, on a fait 2500, aujourd'hui, on est obligé de faire 3500. Toute cette motivation, le fait de booster cet enthousiasme, etc., bah, ça a été beaucoup plus vivant qu'une fois que c'est atteint. Moi, je croyais que ça allait changer ma vie. Ouais, I'm a girl boss, baby, et tout. Rien du tout. Et finalement, je me suis dit, ah, bah, c'est bon, c'est atteint, ok. Bah, maintenant, on fait quoi? Et du coup, après, bah, ça m'a permis de grossir les objectifs, etc. Mais au départ, vraiment, je l'ai démarré timidement avec, je me disais, des petits compléments de revenus, ce serait très bien. Et finalement, ça allait plus vite que ce que je pensais. Et puis, les résultats étaient là, les clients étaient là. Et je me suis dit, bah, non, en fait, là, on va faire une vraie entreprise. Voilà quoi, je vais être une chef d'entreprise.
Trop bien. Et c'est vrai que c'est plus le challenge qui t'a boosté. Et c'est vrai que nous, c'est la même chose. Et c'est drôle ce que tu as dit parce que nous, ça a été un pivot aussi quand on avait Snackies à l'époque. Ça a été le pivot, c'est au moment où on a décidé de se faire des objectifs. Parce qu'au début, nous, on faisait ça parce qu'on vivotait. On s'amusait. Franchement, nous, c'était plus un jeu qu'autre chose. Et c'est vrai que le jour où notre père a dit... parce qu'Isadora n'allait plus avoir bientôt de chômage, notre père a dit, voici combien de box mensuellement vous devez vendre par mois, enfin, de box que vous devez vendre par mois, pour que vous soyez rentable et que vous puissiez vous verser un salaire. Nous, on était là, c'était... à l'époque, c'est 500 box.
500 box, il fallait faire.
Ça me paraissait juste impossible, parce qu'on faisait quoi? Max 200 box, tu vois, 200 box.
Ouais.
Et ça nous paraissait impossible. Et on lui a dit directement, c'est impossible, papa, mais c'est impossible.
Parce que nous, on est comme ça.
Nous, on est comme ça. Nous, c'est tout de suite des bêtises. Non, non, non. Et en fait, quand on a commencé, on a acheté un grand tableau blanc. On l'avait montré à l'époque en vlog sur YouTube. On avait acheté un grand tableau blanc dans notre bureau. Et on avait dit combien il fallait vendre, comme toi, tous les jours, exactement, pour pouvoir atteindre 500 box à la fin du mois. Et ça a changé totalement la stratégie, ça a changé totalement ta façon de communiquer. Et à la fin, bah, on en vendait 2500 par mois à la fin, au moment où on a fermé Snackies, parce que bah, finalement, c'est ça qui nous a challengé.
Parce qu'il y avait, comme tu dis, un but.
Oui.
Quand tu fais des vidéos sur YouTube, des petits posts sur Instagram, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu les fais, bon. Et quand tu as compris que tu le fais aussi bah, pour te payer, pour ta famille, pour que l'entreprise grossisse, bah, les posts, tu les fais avec l'objectif de « il me faut un chiffre d'affaires » et non pas « oh, comme que voilà, ça m'a plu ». Voilà, ça m'a plu, ce petit post, il m'a plu. C'est pas le but non plus de l'entrepreneuriat.
Et comme ça fait…
Et c'est ça qu'on voit aussi avec beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, c'est qu'on dirait qu'entreprendre, c'est la mode. Si tu fais pas ça, t'as raté ta vie. Si t'es salarié, t'es une victime de la société, t'es un pigeon, un rat, etc. Alors que pas du tout. Moi, je connais des salariés qui sont beaucoup plus heureux que des entrepreneurs. Et il y a vraiment ce truc de « il faut entreprendre ». Donc, les gens font tout et n'importe quoi. Et au final, ils n'ont aucun objectif. Ils veulent entreprendre, mais si on creuse, bah, pourquoi tu vas entreprendre? Bah, pour l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas une finalité, en fait. C'est plutôt qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent. Et les gens, ils disent l'argent, comme ça. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de but. Et du coup, bah, il n'y a pas la même... Tu ne sais pas où tu vas, en fait, tu es comme ça. Tu n'as pas de plan, tu n'as pas de GPS, tu n'as rien. Et bah, du coup, à la moindre difficulté, tu vas arrêter ou autre. Ou tu vas peut-être persévérer un petit peu. Mais finalement, comme il n'y a pas un vrai objectif, bah, ça ne fonctionne pas, quoi. Et c'est normal aussi.
Et d'ailleurs, c'est quoi, toi, ton objectif Pourquoi aujourd'hui tu es entrepreneur et pourquoi tu vis ta meilleure vie en étant entrepreneur? Qu'est-ce qui fait que ça te plaît et qu'est-ce que tu vois pour la suite en termes d'objectifs, que ce soit dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que t'apporte l'entrepreneuriat dans ta vie personnelle et professionnelle?
Ouais. Ben moi, surtout, c'est une liberté. C'est-à-dire le fait de, par exemple, j'ai envie d'aller en vacances, ben j'y vais. J'ai envie de me lever à midi, ben je me lève à midi, etc. Et c'est vraiment, en fait, finalement, grâce à l'entrepreneuriat, j'ai pu avoir un job qui est au service de ma vie et plus le contraire. Et du coup, je trouve ça juste amazing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au stade où j'en suis, où bah voilà, j'ai une équipe, etc., qui fait que finalement, même si pendant une semaine, je ne fous rien dans mon business, bah, les choses tournent. En fait, la community manager est là, le social media manager est là, l'équipe du SAV est là, etc. Les fabricants, l'atelier, ils vont continuer à faire des culottes, même si Sokona ne leur dit rien pendant une semaine. Et du coup, bah, c'est aussi cette liberté que j'ai pu atteindre grâce à ça. Les premières années, c'était impensable. Hein. J'ai travaillé beaucoup plus que quand j'étais salariée. C'était même très, très dur. Mais là, au stade où je suis arrivée, bah, c'est bon, en fait, je peux souffler, je peux respirer et j'ai cette liberté justement de pouvoir être aussi à 100% pour mes enfants, de pouvoir aussi bah, profiter. C'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'habiter à Dubaï, etc. Et voilà, et tout ça, c'est grâce à bah, ce qui a été construit. Peut-être on en a bavé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'était dur, on comptait pas nos heures, on faisait des nuits blanches, etc. Vraiment, le fait de mettre toute cette structure en place, mais ça a pris que 3 ans, quoi. Oui. 3 ans dans une vie, j'étais salariée beaucoup plus longtemps que 3 ans, je les ai même pas vu passer, quoi, ces années. Et ces 3 ans de travail acharné, entre guillemets, bah, nous permettent après, pendant 10 ans, 15 ans, d'être tranquille, quoi. Donc, c'est fou.
Et, mais c'est beau ce que tu dis parce que t'es allé au-delà. C'est-à-dire que t'es allé, à un moment donné, constituer une équipe pour en arriver où tu es, justement là. On fait cet épisode aussi pour nous, hein, on prend des infos. Quand nous, ça a grossi, on s'est arrêté. Mmh. Nous, ça a pris de l'ampleur dans nos vies. On s'est dit, on s'arrête parce que nous, on était toujours que toutes les deux, finalement. Alors oui, ouais. Et on a eu des freelances, etc. Mais si on n'était pas là, comme toi, tu dis, si on n'était pas là pendant une semaine, bah, nous, il ne se passait rien. Il n'y avait plus rien qui rentrait, etc.
Parce que on vendait par notre image.
Oui.
Nous, on vendait par l'image d'Adora et Marisa. Snacky, ça vendait que grâce à ça. Oui. On n'avait pas d'équipe derrière qui pouvait s'occuper d'un community management et tout. C'était moi qui m'en occupais. Et c'est vrai qu'Isadora et moi, on a plus cette personnalité un petit peu d'auto-saboteuse. Dès que ça fonctionne très bien, aujourd'hui, je m'en rends compte aujourd'hui parce que nous, à l'époque, on était tellement sûrs que Snacky, ça ne nous convenait pas dans nos valeurs. On s'en est tellement convaincus qu'on a arrêté. Ce qui est une partie vraie. Mais je pense qu'une partie de nous, c'est aussi le fait qu'on s'auto-sabote. Dès que ça réussit beaucoup, on a tendance à vouloir... Parce que je pense qu'on a peur du management, on a peur d'embaucher des gens, de se tromper dans l'embauche. Ouais. Et du coup, toi, à quel moment tu t'es dit « je peux embaucher » et est-ce que c'est ta personnalité à toi d'avoir les épaules pour dire « vas-y, moi je suis manager, je vais embaucher » ou est-ce que tu t'es fait aider d'un manager? Comment t'as fait pour commencer à déléguer certaines tâches?
Bah, il y a eu une bascule en fait. C'est vrai qu'au début, moi aussi, c'était vraiment du personal branding, c'est-à-dire c'était Sokona. Au départ, même la dernière fois, j'étais redescendue dans les postes de Sokup. Je me dis, waouh, mais j'ai fait ça. Et après, je me dis, ah ouais, c'était une autre époque quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que la bascule, elle est arrivée vraiment quand je suis arrivée à Dubaï et que j'ai créé le compte L'Émancipatrice, qui a permis vraiment de dissocier Sokup et Sokona, L'Émancipatrice. Du coup, ça a permis de faire vraiment une cassure. Et voilà, et je pense que c'était important parce qu'au départ, oui, c'est vrai que c'était que moi qui faisais les lives, c'est moi qui m'occupais du SAV, c'est moi qui envoyais les colis, etc. Mais au final, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, j'ai décidé d'entreprendre pour avoir une liberté, être tranquille, ne plus répondre à des ordres, etc. Et au final, à un moment, je m'étais rendu compte que j'étais salariée de ma boîte, mais c'était encore pire. Parce que bah, le samedi, le dimanche, c'était tout le temps, même le soir. Alors que le boulot, quand je rentrais, bah, c'est bon, je pouvais couper, je profitais de mes proches, etc. Mais là, c'était en continu. Et je disais, mais en fait, je suis une victime de la vie, là. Je suis salariée de Sokup. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, j'ai eu cette bascule quand j'ai commencé à déléguer déjà le SAV. Et j'avais plus tous ces trucs négatifs de « je n'ai pas reçu mon colis, vos produits sont nuls, machin, machin ». Et bah, tout ce négatif, je ne l'avais plus. Et en fait, c'est là que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais en fait, la clé, c'est la délégation. Donc, en fait, et ben après, ça m'a donné un autre objectif de me dire, en fait, il va falloir qu'à chaque fois, j'essaye d'augmenter le volume, les commandes, etc., pour commencer petit à petit à déléguer. Et vraiment, l'objectif, c'était qu'en fait, si moi, je suis très malade ou je suis pas disponible, il faut que ça continue de tourner. Et ça a vraiment été bah, avec la cassure, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, où j'ai dit, bah, Socup, aujourd'hui, c'est plus que Socona. Il y avait Charlène, à l'époque, qui était sur le SAV. Il y a mon mari qui m'avait rejoint, etc. et tout. Et je m'étais dit, bah, en fait, ça peut plus être que moi. Et bah, j'ai besoin de cette cassure. Et le fait que j'ai débarqué, entre guillemets, à Dubaï, je me suis dit, bah, super, je vais faire un compte perso où je vais partager bah, mon expérience d'immigré, expat à Dubaï. Et en parallèle, bah, ça va être plus poussé entrepreneuriat. Et à côté, comme ça, Socup, bah, je délègue à une community manager, etc., que je vais présenter. Donc, au début, il y a eu une petite transition, une petite passation. Donc, on nous voyait encore toutes les deux. Et là, aujourd'hui, on ne me voit quasiment plus sur Socup. Des fois, je fais des petites interventions, une à deux fois par mois et encore. Et voilà, ça s'est fait en douceur, en fait, comme ça.
Donc, toi, tu as eu quand même le côté, peut-être une confiance en toi, mais on en reparlera aussi, de te dire, je n'abandonne pas Socup. Je continue, parce que tu aurais pu dire, oh là là, je suis salarié de mon entreprise, je supporte plus, j'arrête et je vais trouver, et inlassablement, essayer de chercher quelle est l'entreprise qui me fera vivre la baisse vie dont tu parles. Toi, t'as mis des outils, des outils en place pour pouvoir vivre ta belle vie aujourd'hui, mais tu aurais pu dire, j'en ai marre, je me casse. Pourquoi tu l'as pas fait?
Bien sûr. Parce que sinon, je retournais dans le salariat. Moi, c'est mort. J'ai dit, mais attends, c'est quoi le pire?
Et donc,
parce que,
ce serait quoi?
De toute façon, si j'arrête, il faut bien que j'ai des factures à payer.
Oui.
Dans tous
les
cas, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si j'arrête Socup, en fait, qu'est-ce que je fais? Et je ne me voyais pas relancer encore un autre business. Déjà, je n'avais pas d'autre idée. Déjà, l'idée de Socup, dans le podcast, je crois que j'avais expliqué, elle a mis tellement de temps à émerger que je me suis dit, attends, va perdre 3 ans.
Je la tiens, celle-là.
Business. Je dis, là, je tiens un truc, ça fonctionne, etc. Bah, j'y vais, quoi. Vraiment.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes comme nous, mais on est très nombreuses, hein. Il n'y a pas que Isadora et Marisa qui sont comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous et qui sont plutôt frileuses, qui ont, c'est juste un manque de confiance en soi, en fait, tout simplement. Et quand on est entrepreneur, pas avoir confiance en soi, c'est aussi ce qui va faire que, bah, c'est compliqué. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme, si t'as un conseil ou un truc qui te vient à l'esprit quand tu te dis, lancez-vous, déléguez, aidez-vous des autres pour propulser la boîte, quoi.
Ouais. Ben moi, pour moi, c'est vraiment le proverbe africain. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et moi, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai vraiment, vraiment besoin des autres. Et c'est tellement une richesse parce que les gens vont avoir un regard complètement extérieur sur l'entreprise. Ils vont pouvoir te donner des pistes que toi, tu ne vois pas parce que toi, tu as la tête dans le guidon comme ça. Et vraiment, l'être humain, pour moi, ça a été la richesse de la marque, etc. Et même juste le fait que quand mon mari m'a rejoint, on était deux à porter Socup. Lui, il avait une vision en plus beaucoup plus business que moi, où moi, j'étais plus sur la passion, j'aime ce que je fais, etc. Donc, tout ce qui est les chiffres, etc., bah, la rentabilité, ça ne me parlait pas. Au départ, les chiffres, même le prix des produits, je l'ai fait comme ça, quoi. J'ai même pas étudié le truc. Je dis, bon, tiens, allez, ça, c'est mignon. Qu'est-ce qu'ils font les concurrents? Qu'est-ce que machin? Bah, allez, hop. J'ai mis un prix comme ça, mais il n'y avait aucune logique. Je ne peux même pas expliquer le truc.
Pareil pour Isadora, pour Snacky. Je m'en souviens parce qu'à l'époque, elle avait mis un tarif qu'elle estimait humain et bien, et au bout d'un moment c'est Mathieu qui lui a dit, mais en fait ça, ce tarif là,
quelle est ta marge,
c'est quoi une marge?
Ouais.
Zéro, que de chi.
Voilà.
Et donc il avait dit il va falloir augmenter. Ils auraient fait non, n'augmentons pas, les gens peuvent pas,
les gens sont pauvres, ils peuvent pas se permettre ça.
Mais c'était une entreprise, quoi.
Et du coup, bah, ça a permis aussi de professionnaliser les choses, etc. Et juste une personne en plus. Ensuite, pour le SAV. Et puis, petit à petit, tous les membres, en fait, qui ont rejoint l'équipe, bah, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, la richesse, c'est vraiment les autres. Et voilà. Faut faire confiance aussi aux autres. C'est pas facile, hein, de déléguer. On a eu aussi beaucoup de déceptions. Voilà, de personnes qui vont te vendre un truc super sur le papier, etc. Et en final, en mise en application, c'est une catastrophe, etc. Même des fois sur des missions qui sont très, très simples. Et voilà, par exemple, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec, entre guillemets, les graphistes. Je pense qu'on n'est pas du tout sur la même planète. Et à chaque fois, je me dis, mais les artistes, moi, j'arrive pas. Et je me suis mis ce truc de, en fait, je sais pas, j'ai l'impression, ils planent. Désolé, les graphistes, mais c'est le ressenti que j'ai. Et à chaque fois, en fait, on avait du mal avec les graphismes. Donc, pour l'identité visuelle, on l'a fait je sais pas combien de fois, les packaging, etc. Et c'est vrai que c'était symptomatique, où on avait vraiment du mal avec tout ce qui était dans la création. Après, ça a été aussi la partie vidéo, où on n'arrivait pas à trouver les prestataires qui nous convenaient, etc. Même quand on mettait des gros budgets, etc. Et en fait, bah, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir des fois creuser avant d'avoir une perle. Et du coup, ouais, ça, c'est vrai que c'est assez complexe. Mais dans tous les cas, toutes les expériences, même si elles sont décevantes, etc., ben, on apprend. Et du coup, c'est ça qui fait aussi l'expérience, la richesse, etc. Donc, on doit se tromper et on va se tromper de toute façon. On va faire beaucoup d'erreurs, on va perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais c'est comme ça, c'est le jeu.
Bah c'est hyper important ce que tu as dit, je trouve ça vraiment bien parce que nous aussi, hein, les graphistes, monteurs, etc.,
bah c'est ce qui est le plus
difficile. Mais ça a été, c'est le plus difficile, sachant que nous, c'est quand même la base aussi de notre métier, etc., bah comme le tien. Et c'est vrai que t'es là, t'avais noté ce que je t'avais dit, puis moi, j'avais une vision dans ma tête, tu l'avais noté parce que moi, c'est pas comme ça que j'imaginais la chose. C'est vrai que moi, ça me décourage plus qu'autre chose, donc j'ai tendance, moi, plutôt à dire, tu sais quoi, laisse tomber. Ok, je prends ton truc. Alors que ça me convient pas forcément. Au fond de moi, je sais que le produit final n'est pas celui que j'aurais rêvé. Mais je veux dire,
nous, on veut pas faire de peine.
Nous, on veut pas faire de peine. Donc, tu sais quoi, j'accepte ton truc, je te paie ton devis, je te paie ta facture. Mais au fond de moi, je suis pas hyper satisfaite.
Et parfois, on l'utilise pas. Et
parfois, on va pas l'utiliser, du coup, parce qu'on se dit, bah, en fait, j'aime pas, mais j'ai payé.
Bah ouais.
Mais c'est intéressant que tu dises que toi aussi, tu l'as vécu. Parce que les gens pensent que dès qu'on crée une équipe, tout le monde va bien, tout le monde s'entend bien, que c'est la joie. Alors que nous, l'épisode de ce podcast, on voulait aussi que ce soit le côté aussi des coulisses du vrai entrepreneuriat.
Ouais, bien sûr.
Puisque l'entrepreneuriat aujourd'hui est hyper glamourisé, c'est un mot que j'ai inventé, sur les réseaux. Et c'est vrai que les gens n'ont pas parfois conscience de ce qui se passe vraiment dans les coulisses d'une vie d'entrepreneur. Ouais. Donc c'était important de faire l'épisode avec toi parce que tu as sorti récemment ta formation, qui s'appelle comment déjà ? Redis-nous.
Ah non, tu dois savoir là.
Je reçois tous les mails tous les jours. Je le vois, je l'ouvre, je le lis. Tous les jours, j'ai trop de charge mentale. Je veux pas. Non, le côté business game, je le vois tous les jours dans les newsletters.
Ouais.
Impossible de m'en souvenir aujourd'hui. Business game. Et c'est vrai qu'on avait fait une visio ensemble pour que tu nous expliques ton projet de formation. Et on avait parlé justement de toutes ces choses, mais on était en off, de toutes ces choses qui se passent dans une vie d'entreprise, mais que les gens ne savent pas. Parce que forcément, nous, en tant qu'entrepreneurs, on va pas passer nos journées à se plaindre, à dire voici ce qui va pas dans une entreprise. Et puis, quand on est dans le dur, on a un truc à régler. Ouais. Je vais pas prendre mon téléphone forcément pour dire vous savez que là, c'était le dur. Donc, c'était important. Mmh. Est-ce que toi, tu peux nous dire déjà la difficulté dans entrepreneurial que tu rencontres le plus souvent, selon toi, au quotidien, c'est quoi la chose la plus dure, selon toi ?
Bah pour moi, c'est l'humain. C'est-à-dire, oui, c'est une grande richesse, c'est super, etc. Comme je dis, on a besoin des autres, etc. Mais la gestion, entre guillemets, de l'humain, des émotions, etc., c'est très compliqué. C'est comme quand on vit en couple avec quelqu'un, finalement, on apprend à vivre avec quelqu'un d'autre que nous. Déjà, nous-mêmes, on est compliqués. Mais là, on doit aussi s'adapter aux fragilités de l'autre, aux traumas, etc. Et c'est hyper dur, la vie en couple, et surtout quand il y a des enfants, c'est très, très complexe. Et ben, la vie et la gestion et le management d'une entreprise, c'est pareil. Parce que c'est plein d'individus qui ont chacun leur singularité, etc. Et on doit jauger avec tout ça, quoi. Entre celui qui veut absolument tout le temps de la reconnaissance, l'autre qui manque de confiance, l'autre qui, finalement, à chaque fois, son idée, elle est bien, mais il y a quelqu'un d'autre derrière qui vient pour bien peaufiner ça, mais il faut pas vexer l'autre, etc. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et aussi la recherche de talent. C'est vrai que des fois, nous, on a vraiment besoin dans l'entreprise, des fois, d'avoir des gens qui sont meilleurs que nous et qui vont vraiment nous pousser sur des choses et voir plus loin que nous. Et là, nous, par exemple, c'est une des limites qu'on a avec Sockup aujourd'hui. On se dit, on a du mal à attirer les talents. Je ne sais pas si c'est la manière dont on recrute, si le salaire ou etc. n'est pas assez attractif, ou que la marque elle donne pas forcément envie ou autre, ou que c'est très très compliqué. Mais on a cette difficulté à trouver vraiment des personnes très 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 compétentes et qui vont voir plus loin que nous et qui vont être meilleures que nous, vraiment. Et là, c'est vrai que c'est le souci qu'on a des fois même. Là, par exemple, on a fait appel à une grosse boîte pour des vidéos, voilà, pour les ads, etc. Elles étaient bien faites, mais pour nous, c'était encore, il y avait des choses. On se dit, mais c'est pas possible. Comment, par exemple, les sous-titres, ils vont te les mettre en écrit en blanc, alors que le fond, il est hyper lumineux. On n'arrive même pas à les lire. On se dit, mais c'est pas possible. Et des choses, voilà, plein de petites choses comme ça, etc. On se dit, ah ouais, en fait, c'est même pas le prix qui fait, parce que des fois, on se dit, bah, on va payer très cher une grosse boîte, etc. Est-ce que ça va être bon? Bah, finalement, bah, non, on revient aux choses où, bah, en fait, c'est des humains, quoi. Et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment, la gestion de manière globale et la recherche de talent au niveau, humain.
Et c'est toi qui gères les humains, justement ? Ou est-ce que tu as pris quelqu'un, un RH, ou c'est toi qui gères, c'est toi la RH, finalement ?
Ouais, non, pour l'instant, c'est mon mari et moi où on va plutôt manager les équipes, etc. Et c'est vrai qu'on aimerait bien, à moyen long terme, avoir un directeur opérationnel qui, en fait, chapeauterait un peu ce que nous, on fait pour nous pouvoir aller sur d'autres projets et laisser un peu la machine tourner, quoi.
Et bien, justement, quand tu dis laisser un peu la machine tourner, je me doute, si je lis entre les lignes, que, que Soak Up, c'est ton bébé, tu crois en ce projet, etc. Mais à un moment donné, au bout de 6 ans, on ne va pas se mentir, très souvent, on a une certaine lassitude de faire les mêmes tâches. On aime le produit, on aime notre bébé, mais on veut qu'il s'épanouisse tout seul. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimes le plus faire dans ton entreprise ? Est-ce que tu n'aimerais ne plus faire, en fait, du tout ?
Ouais, exactement. Là, c'est le cas et c'est pour ça aussi que j'ai lancé le projet L'Émancipatrice, donc la formation, etc. C'est que j'avais besoin de voir autre chose et j'avais l'impression aussi à un moment que j'étais arrivée un peu au bout au niveau de Soak Up, que j'avais presque tout vu, tout essayé, etc. Et j'avais besoin vraiment de me stimuler autrement. Et c'est vrai que là, je rentrais un peu dans une routine où le mardi, à la réunion avec l'équipe du SAV, le mardi, il y a ça, le jeudi, il y a ça, le lundi, il y a ça, fin de semaine, il faut toujours penser à ça, etc. Et je rentrais un peu dans une routine. Et du coup, c'est pour ça que ça a été très stimulant et très important pour moi de lancer autre chose et de faire plein de choses nouvelles. Et j'ai adoré cette partie où j'ai créé la formation de A à Z, donc partant de rien, parce que c'était plein de choses nouvelles que je faisais ou que j'avais oubliées, etc. De redéfinir son client, rechercher des nouveaux prestataires, etc. Et ça a été une superbe expérience qui n'est pas finie, mais que j'ai adorée parce qu'il y avait tout ce renouveau. Et sinon, au niveau de Soak Up, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la recherche et développement des nouveaux produits. C'est-à-dire que pour le coup, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout délégué. Donc, que ce soit, par exemple, les lancements des compléments alimentaires qu'on vient de faire, les culottes ultra absorbantes, etc. Tout ça, ça vient de moi ou des demandes, des clients, etc. Où j'essaie toujours de comprendre quelles sont les tendances, quelles sont les demandes, etc. Et après, moi, ce que j'aime trop faire, c'est ça. C'est partir de rien. On a cette idée, tiens, on va faire un complément alimentaire. Comment on fait ? Il va falloir s'entourer de naturopathes, de machins, etc. Chercher des labos, etc. Tout ça, moi, j'adore cette partie-là. Et après, une fois que c'est lancé, que le produit est fini, on a fait le shooting, c'est bon. J'ai plus envie de m'en occuper.
Mais et ça fait hyper plaisir d'entendre ça. Mais franchement, si vous savez, parce que
c'est exactement notre vie. C'est notre
pensait, vie. Tu vois, la différence, c'est que nous, on pensait que comme on est comme ça, nous, on adore créer le produit. Mais une fois qu'il est sorti, c'est bon. On passe à autre chose. Et du coup, on avait cette impression d'être parfois un peu
quelqu'un lunatique.
Sur notre dernière vidéo. Mais en fait, vous êtes des girouettes. Oui. Et oui, toi, c'est très joli une girouette. Oui, il y a ce côté où on n'a pas cette vie lisse et linéaire où on se contente. C'est dur pour nous de se contenter. Je sais par exemple que Mathieu, mon conjoint, lui, il va toujours me dire « Mais t'as tout là ! Super, t'es contente, tu devrais te contenter. »
Moi, parce que nous, on est comme toi, nous, on a besoin de stimulation, énormément. J'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin que mon cerveau il soit stimulé beaucoup. Ouais. Donc, si je suis dans une période où je maîtrise totalement tout, comme là, par exemple, dans le côté création de contenu, moi, je maîtrise le montage. C'est bon, j'ai compris, le montage, je sais faire. J'ai appris il y a 6 ans à faire du montage vidéo sans avoir jamais fait ça de ma vie. J'ai trouvé ça hyper stimulant d'apprendre, de trucs. Maintenant, c'est bon, ça fait 6 ans que je le fais, si tu veux. C'est pas quelque chose qui me challenge au quotidien, c'est pas quelque chose qui me stimule. Donc moi, je vais devoir chercher une autre stimulation. Et c'est vrai que c'est intéressant que toi, tu t'es dit, mon entreprise, elle roule. Je ne suis plus stimulée par certaines parties de cette entreprise. Donc moi, je vais me focaliser sur une autre partie qui est donc la création de nouveaux produits. Et en même temps, je vais peut-être créer un autre side project qui est corrélé à mon aventure d'entrepreneur mais qui n'est pas forcément lié à Soak Up en fait mais qui est je trouve ça hyper
intéressant. C'est ce qu'on avait fait avec l'agenda à l'époque.
Bien sûr.
Avait Snackies et à un moment donné c'était c'est bon, on connaît par cœur tous les mois faire les commandes auprès des fournisseurs. Alors moi, ma partie que j'ai toujours préférée, c'était de chercher les nouveaux produits qui sortent ou être à l'affût tout le temps de quel nouveau produit, le nouveau snack qui est sorti qu'il faut absolument qu'on partage. Mais au bout d'un moment, c'est toujours la même routine. Et c'est là qu'on a créé, en effet, l'agenda qui nous a sorti de ce... Mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu as comme compétence aujourd'hui ? Une compétence un peu unique ?
Non, mais attends, parce que t'as pas fini. Elle a pas dit la chose qu'elle aimait pas du tout faire dans sa boîte.
Moi, j'avais perdu le fil.
Tout le reste, moi, j'ai bien compris, c'était limite...
En fait, c'est tout ce qui est administratif, la paperasse ou les trucs trop... c'est toujours la même chose, Par exemple, bah, regarder la gestion des commandes. Par exemple, au début, bah, moi, j'aimais beaucoup le marketing d'influence. C'est-à-dire, j'aimais bien un petit peu chercher les nouveaux influenceurs, échanger avec eux, voir un petit peu les personnalités de chacun. Les tarifs aussi, c'était marrant parce que d'un influenceur à un autre, on est sur vraiment… Il y a énormément de disparités. Et des fois, pourquoi ça s'est justifié comme ça ou comme ça, alors qu'elles, ses stats, elles sont mieux, mais pourquoi elle est beaucoup moins chère? Et j'adorais cette partie. Et au bout d'un an ou deux ans, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, voilà, sur l'influence. Bah, du coup, j'ai délégué à une personne, bah, voilà, chez Socap, qui était que sur le SAV. Je dis, est-ce que ça t'intéressera? Elle m'a dit, ah ouais, super et tout. Et maintenant, bah, elle est à 100% sur les collabs. Et du coup, bah, moi, je suis juste là en train de, des fois, valider les choses. Je suis encore un peu dans les groupes pour regarder. Mais c'est bon, ça m'a, voilà. En fait, je crois que c'est des choses quand elles sont trop, toujours la même chose et qu'il n'y a pas de renouveau, bah ça, au bout d'un moment, ça me lasse, en fait.
Je comprends. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Et quelle compétence tu penses que tu as, une compétence un peu unique qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là où tu es? C'est la phrase complètement bancale, je crois.
Non, ouais.
Non,
c'est,
ah bon,
c'est, bah, j'ai compris.
C'est pas, c'est pas, j'ai compris. Ce que j'ai dit, mais c'était bien. Quelle ouais. compétence, qualité tu penses avoir qui t'ont permis d'en être là où tu es aujourd'hui? C'est mieux.
Ouais. Là, comme ça, je sais pas. Je crois que j'ai besoin de temps pour répondre à cette question. Je sais pas. Mais là, comme ça, je dirais, ce qui a fait que j'en suis là, en toute modestie, c'est moi, c'est ma personnalité. C'est vrai, hein, je dis ça vraiment. C'est le fait que, en fait, la personnalité que j'ai, qui est d'être fonceuse, d'avoir confiance, etc. Et tout ça, je l'ai eu grâce à ces 6 ans d'entrepreneuriat où, en fait, j'ai l'impression vraiment, là, est-ce qu'on peut me faire pire que ce que j'ai vécu? Et qu'à chaque fois, en fait, je me suis relevée. Et que, du coup, bah, en fait, j'ai compris que, il n'y a pas vraiment de limite. En fait, les limites, elles sont vraiment dans nos têtes et qu'on est vraiment capable à partir du moment où on prend le temps d'apprendre, etc. Et même si on est moins intelligent que quelqu'un, moins compétent ou qu'on capte moins, etc., ben en fait, on peut arriver à la même chose. C'est juste que peut-être qu'on va mettre plus de temps. Voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà. Et je pense que cette personnalité forte où je suis aussi très, très franche, très, je m'en fous, en fait, de ce que les gens disent, etc. Et ça, je sais que beaucoup ne l'ont pas. Et même moi, je l'avais pas au début. C'est-à-dire que quand je faisais mes stories, j'étais pas très sûre. Ou des fois, je disais, non, ça, c'est trop touchy, j'en parle pas. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de limite. Et voilà, j'arrive facilement à parler de énormément de choses. Et même, par exemple, les difficultés de l'entreprise. Où avant, bah, non, je voulais pas montrer cette image de quelqu'un qui se plaint, qui, etc. Et là, depuis 2 ans, bah, surtout en story, sur mon compte Instagram, où je vais tout partager. Ou la dernière fois, par exemple, j'expliquais qu'en fait, là, on était arrivé à un stade au niveau de Socap, où, bah, le mois dernier, il y a eu plus d'argent qui est sorti que d'argent qui est rentré. Et ça fait vraiment bizarre quand tu dis, ah ouais, là, on est à moins, je sais pas combien. Et en fait, après, j'ai expliqué, mais voilà, c'est comme un espèce de fond de roulement, qu'on a beaucoup avancé de frais pour les maillots de bain parce que l'été arrive. Et voilà, etc. Donc après, tout ça, je l'ai expliqué. Mais c'est des choses qu'il y a 2-3 ans, j'aurais jamais faites. Jamais faites.
Bah, je comprends. Ouais. Déjà que nous, en France, on parle pas d'argent. C'est vraiment le truc, je pense. Je sais que beaucoup de gens le disent, mais c'est vrai, un vrai sujet que je ne comprendrai jamais parce que nous, on est tellement peine dessus que je comprendrai jamais cette crispation autour de ces sujets parce que beaucoup, du coup, ça fait que les gens aussi se comparent beaucoup les uns aux autres.
Oui.
C'est dommage parce qu'en fait, vous savez pas ce qui se passe dans une entreprise quand on Exactement. Vous dit que on gagne 1 million. Nous, on a fait 1 million avec Snackies, mais c'est pas 1 million dans mon compte en banque personnel. Bah oui, les gens, ils ont pas conscience de tout ça. Donc,
c'est chouette.
Ça aurait été chouette d'avoir 1 million sur mon compte personnel. Oui. Mais bon. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de que tu t'es relevé beaucoup. Est-ce que tu as un gros échec entrepreneurial depuis ces 6 ans, depuis que tu as commencé ta carrière d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a un gros échec qui te reste? Ça peut être un échec financier, ça peut être un échec humain, ça peut être un échec de tout.
Qui t'a mis dans le mal.
Qui t'a mis dans le mal, toi, personnellement. Ouais.
Oui, bah moi, c'est l'histoire. Je ne sais pas quand on a fait le podcast, je ne pense pas que c'était arrivé. C'était le fournisseur, en fait, qui était notre fabricant de culottes menstruelles, donc Made in France. Où moi, j'étais complètement aveuglée par le Made in France, c'est l'éthique, c'est machin, c'est super, etc. Et en fait, du coup, bah, ce fournisseur a décidé de nous faire concurrence et même d'appeler certains de nos clients pour leur proposer bah, leurs produits qui étaient moins chers, etc. Et ça, franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on peut… En fait, ça m'a trop marquée. Et finalement, ça a été une leçon, mais incroyable, parce que bah, j'ai compris que oui, en fait, finalement, c'était quand même un monde de requins. On est dans le monde de l'entreprise. Bah, il y a l'argent en question et certains, bah, avec l'argent, voilà, hein, ça leur fait perdre beaucoup de choses, de valeurs, etc. Et du coup, ça m'a mis vraiment une claque où j'ai compris que bah, je devais quand même me méfier des gens, qu'on n'était pas au pays des bisounours, que certaines personnes bah, vont s'approcher de l'entreprise et vont pas lui vouloir du bien, etc. Et ça m'a vraiment très impactée. Et surtout, en fait, la manière dont on s'est relevé de ça, où finalement, bah, en fait, on a lancé notre propre atelier Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on maîtrise la chaîne de production de A à Z. Donc, on n'a plus besoin, on n'est plus dépendant de quelqu'un. Et pareil, il y avait ce chiffre, justement, que moi, j'ai retenu. Pour moi, c'est vraiment le pire chiffre dans les affaires. C'est le chiffre 1. Voilà, que ton business dépend que d'un réseau social, que dépend que d'une personne, que dépend que d'un client, d'un fournisseur. Et là, c'est ce qu'on avait vécu, puisque pour les culottes, on avait à la base que ce fournisseur-là. Donc, on se dit, ben, non, on ne peut plus travailler avec lui. Ben, en fait, on n'a plus de fournisseur, ben, on n'a plus de marque, en fait, c'est fini. Donc, c'est vrai que ça a été très, très, très dur. Mais en même temps, c'est la meilleure leçon que j'ai eue. Et du coup, je suis très contente d'avoir eu cette expérience parce que ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Et ça nous a permis de rendre la marque encore plus forte et vraiment de… Ouais, ce truc-là, il m'a marquée, choquée. Et en même temps, je suis très, très contente de l'avoir vécu.
Et du coup, là, le fournisseur qui aujourd'hui a lancé sa marque aussi de culottes, il est connu ? Tu vois la marque au quotidien ?
Non, parce que je pense qu'en termes de culottes menstruelles, ou sinon peut-être au niveau des B2B, mais je pense pas qu'il a cartonné ou révolutionné son truc. Après, il avait d'autres marques de culottes menstruelles pour qui il produisait, on n'était pas en exclusivité, et il avait aussi d'autres produits. Donc, c'était un fournisseur, un fabricant, donc ils ont leur atelier, etc. Et donc, ils font plein de choses. Donc, je pense que c'est pas ça qui a révolutionné ou qui va révolutionner leur business, bien entendu. Mais voilà, sur le coup, c'était assez violent, quoi.
Et toi, c'est quoi le truc le plus bullshit que tu entends sur les réseaux, dans votre milieu, sur l'entrepreneuriat, oui, des concepts un peu bullshit dont tu… Parce que je sais que la formation que tu as créée, elle fait aussi… Ouais. C'est aussi elle répond aussi à ces trucs qu'on entend tout le temps sur les réseaux sociaux et dont on ne peut plus. Et c'est pour ça qu'on voulait te parler avec toi aussi aujourd'hui, parce qu'on voulait parler de ta formation qu'on trouve hyper bien faite. Mmh. Mais toi, ouais, le truc le plus… Un des trucs les plus bullshit que tu entends sur l'entrepreneuriat, tu te dis « non, moi, j'adhère pas du tout
». C'est un peu tous les illuminés du développement personnel, les pseudos coach expert, etc. Les gens, des fois, ont lu un livre de développement personnel et ils s'autoproclament coach en développement personnel, etc. Pareil, tout le monde est coach business. Les gens ont des fois fait une formation sur le marketing et vont dire ils sont experts en marketing, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je me dis, en fait, il y en a certains, ils sont très éloquents où ils savent faire les bonnes accroches, bien attirer sur les réseaux sociaux, mais finalement, le contenu qu'ils ont ou vraiment ce qu'ils ont à partager, c'est complètement plat. Et les gens se font avoir, en fait, parce que la personne, elle présente bien, elle parle bien, elle explique bien le concept, mais ça ne fait pas d'elle un expert ou une experte sur le sujet, quoi. Et c'est vrai que là où moi, je me dis, où les gens aussi, des fois, il faut les responsabiliser, ils ne sont pas logiques, c'est que dans la vraie vie, en dehors des réseaux sociaux, si quelqu'un te dit, bonjour, oui, j'ai vu deux tutos pour déboucher, un toilette, tu ne vas pas dire que tu es plombier parce que tu as vu deux tutos sur YouTube ou parce que tu as lu un livre, La plomberie pour les nuls. Et du coup, c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi au niveau des experts, des coachs, des machins, les gens croient tout ce que la personne dit ou tout ce que la personne montre, alors qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est très illusoire, on montre ce qu'on veut et on peut s'inventer n'importe quelle vie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce truc et les limites, en fait, aussi du développement personnel. Ou des fois, on va énormément faire culpabiliser les gens. Oui, si t'es pauvre, c'est ta faute. Si tu réussis pas, c'est toi. T'as des croyances limitantes. Mais toi, juste le fait que tu dis ça, c'est que toi-même, t'as une croyance limitante. En fait, des croyances, on peut pas. En fait, chacun croit ce qu'il veut, etc. Et je trouve aussi que des fois, les réseaux sociaux et les gens sont très, très culpabilisants. Et laisser les gens faire ce qu'ils veulent, quoi. Merde. Et du coup, c'est vrai que ça m'agace vraiment sur les réseaux sociaux. Et où je me dis vraiment où les gens des fois ont pas de logique, pour finir mon propos, c'est que en fait certaines personnes vont dire oui je suis expert, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Bien t'en fasse. Mais du coup le truc c'est que soit pour moi t'as la théorie, c'est-à-dire c'est vrai que t'as fait des études, par exemple si t'es psychologue, etc. T'as fait un bac plus 5, etc. Ou même quelque chose de court, un cursus court, mais t'as fait des études, t'as au moins la théorie sur les choses que tu veux partager, développer, ou autrement t'as la pratique. C'est-à-dire, OK, peut-être que tu n'as pas fait d'études, tu es autodidacte, etc. Mais tu as du concret à montrer. Tu as de l'expérience pendant 5 ans, 10 ans, etc. Il y a des gens, ils ont un bac moins 5, mais ils arrivent d'un point de vue business, ils sont très, très intelligents. Et du coup, eux aussi, ils peuvent faire des formations, ils peuvent partager des choses. Mais quelqu'un qui n'a pas de théorie, donc qui n'a pas un bagage, des études, des compétences particulières et pas de pratique, il ne peut rien prouver. Il n'a lancé aucun business, mais des causes business. À un moment donné, tu n'as pas la théorie, tu n'as pas la pratique.
Mais ils ont le mindset, mindset, c'est ce que tu n'as pas visiblement, parce que tu pourrais tout faire toi aussi, tu pourrais être plombier si tu voulais.
Et c'est dingue, et ça je trouve ça très dingue. Donc dans le meilleur des cas, la personne qui a la théorie et la pratique, c'est juste génial, Mais au moins l'un des deux. Mais si t'as rien, voilà, les trucs d'illuminer, ah oui, tu crois en toi, fais un tableau de visualisation, imagine une Porsche tous les matins et dans 3 semaines, t'auras la Porsche chez toi. Bah non, en fait, à un moment donné, il faut passer à l'action, quoi. Et du coup, c'est tous ces trucs un peu, tu sais, les affirmations positives, les machins, les trucs. Ça, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas d'action, ça ne sert strictement à rien. C'est juste du bullshit ou te faire payer des trucs à 4000 balles et au final, ils vont te servir à rien. Parce que les gens sont doués aussi, hein, pour vendre leur formation, et ils sont trop, trop forts. Mais au final, après, derrière, concrètement, à part grossir leur compte en banque, voilà quoi.
Isadora, veux-tu en parler ?
Non. Tu veux en même temps, l'éloquence, c'est en fait leur compétence. D'ailleurs, je te demandais quelle est ta compétence unique. Mmh. Eux, leur compétence unique, c'est souvent l'éloquence, le côté. Ouais. Ils savent très bien parler, mais comme tous les gourous en vrai, hein, c'est eux qui savent parler, exactement. Comme tous les disciples là. Oui. Et en fait. Ouais. Pas les disciples, c'est nous qui sommes les disciples plutôt. Gourous, ouais. Les gourous, ils savent très bien parler et on peut tomber dedans. Et généralement, on tombe dedans, mais on avait fait tout un épisode, puisque moi, je suis tombée dedans aussi, à de payer 3000 balles pour un coaching qui, finalement, à la fin, mais quand je dis zéro, c'est-à-dire que ça ne m'a rien apporté.
Rien.
Aujourd'hui, je suis aussi légère que quand j'ai commencé ce coaching.
Ouais.
En revanche...
T'es légère, en tout cas, de 3000 euros sur le compte en banque.
Oui, c'est clair.
C'est ce que j'allais dire.
C'est clair. Et encore, je me dis, encore à l'époque, heureusement que j'avais les moyens.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, je le ferais... Tu vois, ce serait un peu plus difficile pour moi de finir le mois. Alors, t'imagines pour les gens qui n'ont pas qui le font quand même, alors qu'ils n'ont pas. Parce que la personne avec qui j'ai fait le coaching disait, quand les gens disaient oui, mais c'est quand même cher le coaching, etc. Moi, j'oserais pas mettre un tel montant, parce qu'il y avait que des coachs dans ce coaching, sauf moi. Moi, j'avais une box.
C'est une coach de coach. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Hein. Sur Instagram, c'est des coachs de coach.
Tout le monde est coach de coach.
Des naturopathes maintenant qui sont naturopathes pour coacher des naturopathes pour être coach de naturopathes, de coach.
Non, mais ça, c'est des coachs de coach.
Coach de coach.
Ouais.
Et quand je lui disais, mais du coup, moi, j'ose pas mettre 4000 euros, les gens disaient ça. Mm. Elle disait, mais peu importe, les gens, ils ont de l'argent parfois sur leur compte épargne, sur leur assurance vie.
Trouver des solutions.
Oui. Moi, je suis là, quand même,
prêt,
4000 euros, 3000 euros. Enfin, on se rend compte de ce qu'on a dans une vie pour quelqu'un.
Mais bien sûr.
Moi, à cette époque-là, c'était « vas-y, tiens, je te donne ».
Parce que nous, on croyait en la valeur. Parce que moi, mettre une formation à 3 000, 4 000, 5 000 euros, la vérité, c'est que notre père, il est expert comptable. Les formations qu'il payait, enfin, son organisme payait pour... c'est des formations qui sont à des hauts montants. Hein, c'est pas des petites formations de 500 balles, hein, pas du tout. Mm. Mais il repartait, il se disait « je suis reparti avec quelque chose en plus, une plus-value ». Si tu mets 3000 euros, toi, pour dire à la fin, t'es même plus allé à la fin du truc, parce que c'était écouter des gens parler, mais t'avais rien de concret. Donc toi, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ta formation rapidement et aussi en quoi elle est différente d'une autre formation voilà, dis-nous.
Ouais. Bah du coup, moi justement, c'est ça, je voulais vraiment faire quelque chose de concret et partager aussi mon expérience. C'est-à-dire que c'est pas juste des grands concepts, ah oui, loi de l'attraction, fais un tableau de visualisation, imagine ton entreprise et puis super, tu vas être millionnaire. Non, à un moment donné, il faut être aussi factuel, il faut avoir un produit, il faut savoir quelles sont les forces de son produit, etc. Et du coup, c'est tout ça que je décortique dans la formation, vraiment toutes les étapes clés de A à Z que j'ai suivies ou que justement je n'ai pas suivies, mais que j'aurais dû suivre puisque je m'en suis rendu compte 3 ans après que j'ai perdu du temps, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps aux entrepreneurs pour qu'ils aient une feuille de route. Et c'est vrai que moi, par exemple, s'il y avait eu cette formation à l'époque quand j'ai démarré, je ne sais même pas si je l'aurais prise puisque je n'étais peut-être pas au même niveau que je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir cette possibilité pour les gens d'avoir vraiment quelque chose de A à Z. Et là, on est vraiment sur du anti-bullshit, quoi. On est sur du concret, concret, concret. Il y a les tutos pour expliquer, etc. Et c'est que des choses vraiment factuelles. C'est-à-dire, quand tu lances ta marque, c'est mieux de protéger le nom de ta marque. Comment on fait ? Tiens, je te montre, on va sur l'INPI, on fait un tuto, etc. Si tu veux une marque et que ce n'est pas toi qui crée tes produits, il te faut des fournisseurs. Comment on les trouve? Tiens, je te dis, moi, comment j'ai trouvé mes fournisseurs. Et aussi, tiens, je te donne le contact de mes fournisseurs. Comme ça, tu gagnes du temps. Si tu veux faire dans le textile, moi, ceux que j'ai contactés, ceux que je valide, etc. Ensuite, les réseaux sociaux, il va falloir communiquer dessus. Comment on fait si tu connais rien? Moi, voilà comment j'ai fait. Et du coup, je montre, par exemple, dans le tuto, l'exemple de Sockup. C'est concret, je l'ai fait avec ma community manager, etc. Voilà comment on a optimisé le profil. En fait, toi, tu as l'impression que tout est comme ça, fait un peu au hasard. Mais en fait, derrière, tout est stratégique. Pareil, fixer ses prix. Là, par exemple, moi, j'avais fait n'importe quoi. Là, j'explique aux gens pourquoi ne pas faire les mêmes erreurs que moi et qu'il faut penser à la rentabilité, etc. Je partage aussi mes outils. Par exemple, mon tableau de suivi. de plus et moins, etc. J'explique que la compta, en fait, c'est juste des additions et des soustractions. Parce que la peur du temps, les gens, la compta, non, moi j'ai peur, j'aime pas les chiffres, je veux pas, etc. Mais t'es obligé d'avoir un œil sur tes finances pour savoir déjà si t'es rentable ou pas. Et puis aussi voir bah, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très concret. Et la formation, j'essaye aussi à chaque fois de rajouter des choses. Par exemple, dans la formation, là, les élèves, ils m'ont dit, ah, c'est dommage, on a… En fait, t'expliques très rapidement les publicités Facebook. Ouais, et je l'explique aussi dans la formation. Pourquoi je l'explique rapidement? Parce que c'est une chose que moi, j'ai déléguée. Donc, je sais même pas tout de suite. Je sais pas faire une pub Facebook. Je sais pas. Parce que nous, dès qu'on a eu les moyens, on l'a déléguée. Et c'est vrai que certaines personnes, ben, ont pas forcément les moyens, aimeraient bien savoir comment on fait. Et, ben, du coup, j'ai fait appel à un ami qui, je sais, lui, il a lancé plein de boutiques et il fait presque que ça. Il a dépensé plus d'un million dans les budgets de pub. Du coup, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de faire une formation, un tuto pour expliquer aux gens, quand t'as pas d'argent, tu peux pas payer une agence, comment tu fais pour faire des pubs? Oui, oui, bien sûr. Bah voilà, il m'a fait un devis. Je l'ai payé. Il m'a fait la formation et du coup, je vais la rajouter à la formation. Comme ça, voilà. Et voilà, j'essaie vraiment que ça soit très, très, très concret pour les gens, pour qu'ils aient vraiment la feuille de route pour pouvoir lancer tranquillement un business. Donc, ça reste très théorique d'un point de vue, parce qu'il y a aussi besoin de la théorie. Il faut l'étude de marché, etc. Comprendre les choses. Et il y a aussi la pratique avec tous les tutos qu'il y a, etc. Et voilà. Donc
moi, j'adore ta formation et c'est pour ça qu'on a voulu en parler avec toi parce que forcément, la personne avec qui Isadora a fait une formation, autant dire qu'elle sera jamais invitée sur ce podcast, du coup. parce que moi, c'est tout à fait le type de formation que j'aurais adoré avoir quand on a lancé Snackies. Parce que nous, on a été comme toi, on a tout fait comme ça. On a écouté des podcasts, on a vu des trucs, on s'est beaucoup renseigné, tutos, etc. Mais on aurait gagné un temps fou. D'autant que nous, à l'époque où on a commencé, la chance qu'on avait, entre guillemets, c'est que les réseaux sociaux commençaient aussi. Ouais. Donc, on a pu apprendre en même temps, tiens, des stories débarquent sur Instagram. Ouais. Bon, OK, les c'est réels vrai. Débarquent sur Instagram. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut se lancer et qui doit maîtriser directement Instagram, les stories, les réels, pour moi, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, franchement, ça, je trouve que c'est très oppressant. Donc, je trouve que ta formation, elle est super pour les personnes qui débarquent dans le milieu et qui doivent se dire, allez, moi, je veux juste une feuille de route. Et si tu es bonne élève, comme moi, je suis une bonne élève, en général, ça te fait gagner du temps et de l'argent sur la formation.
Elle est éligible au CPF aussi.
Ça, c'est intéressant.
Très important. Et c'est une bonne chose parce que du coup, c'est bien puisque quand on entreprend, quand on démarre, on n'a pas forcément les sous. Mais parfois, on a cotisé. Et puis, c'est vrai que le recours au droit, moi, en tant qu'ancienne conseillère en économie sociale et familiale et assistante sociale, je l'ai vu. Les gens, en fait, parfois, il y a plus d'argent qui n'est pas versé, qui devrait être versé, que d'argent qui est vraiment versé, hein, parce que le recours au droit, beaucoup de personnes ont énormément de droits, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ou ils n'ont pas envie, ou aussi certains se disent « Non, moi, je ne veux pas être assisté. » Et du coup, en fait, c'est de l'argent qu'on t'a pris, de toute façon, que tu as cotisé. Donc là, si il peut être utilisé pour quelque chose qui va t'aider à développer un business, ou peu importe, hein, même si ce n'est pas ma formation ou autre, mais les gens, n'hésitez pas aussi à utiliser les droits pour lesquels vous avez cotisé. Quoi,
tout et d'ailleurs, comment on fait pour savoir son compte CPF et tout, tu sais, toi?
Alors, moi, je t'avoue que, comme je te disais, l'administratif, c'est pas mon truc. Donc, quand j'ai commencé à voir le truc du CPF, j'ai dit « Oh my God !» Non, il faut que je délègue ça. Voilà. Et du coup, j'ai finalement un organisme à qui je sous-traite et ceux qui gèrent tout. Donc, sur le site, il y a écrit, de toute façon, financement, machin, ils envoient un mail et ils expliquent la procédure. Mais là, même tout de suite, moi, je peux même pas te l'expliquer. J'ai vu les trucs, j'ai dit « Oh non, numéro unique, aller chercher, je sais pas quoi. » J'ai dit « Non, moi, ça, je veux même pas savoir. »
Mais c'est vrai que c'est important parce que les gens ne le savent pas qu'ils ont droit, mais que ce soit le CPF, les gens ne savent pas qu'ils ont le droit, mais plein de droits qu'on a. En France, on a cette chance d'avoir plein de possibilités, mais en fait, on actionne très rarement. Il y a des gens qui sont les pros d'actionner ça, mais il y a des gens comme nous, on n'actionne pas du tout. C'est dommage parce que du coup, vous payez des trucs directement. Alors que vous cotisez tous les mois pour ça, donc c'est dommage.
Exactement, et c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a plein d'aides, etc. Mais si on ne connaît pas, on ne connaît pas, quoi.
Et tu vois, quand tu parles, je me dis, c'est peut-être mon côté jeune maman fatiguée, je me dis, quelle énergie. Quelle énergie, une entreprise, SoCup, ta formation, tu as des enfants. Comment tu arrives à gérer cet équilibre pro-perso, d'être dans cette énergie? Quand moi, limite, une fois qu'on a fini cet épisode, j'ai envie d'aller dormir.
Je pense aussi que c'est dû à ma personnalité où moi, je suis très active, très dirigeante, etc. J'aime bien les choses qui bougent. Et ce truc de me dire qu'on n'a qu'une vie, il faut que je donne le maximum. Voilà, comme ça, je n'ai pas de regrets, etc. Après, pour tout ce qui est organisation, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable pour moi depuis que je suis à Dubaï. On a une nanny à la maison. Donc, ça fait un troisième adulte qui est là aussi pour les enfants, etc. Et juste ça, le fait d'avoir cette chance de pouvoir payer cette personne, ah, mais ça m'a enlevé une charge mentale. À chaque fois, je dis à mon mari, je dis, mais s'il n'y avait pas la nanny, je crois qu'on aurait divorcé. Hein,
elle est là toute la journée.
Elle est là toute la journée. Donc, à l'époque, elle était en… Parce que les nannies, ici, il y a live-in et live-out. Donc, live-out, ça veut dire elle vient le matin et elle repart le soir. Et à l'époque, nous, elle était en live-out parce que moi, avec mes habitudes de française, « Non, mais quelqu'un chez moi. Non, 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 c'est pas possible. T'es plus chez toi. » Moi, des fois, j'aime bien me balader en petite tenue et tout. Et je me disais, « Oh là là, je me sentirais plus chez moi s'il y a quelqu'un, en fait. » Et du coup, bah, au début, elle était en live-out. Ensuite, il y a eu le confinement et il a commencé à avoir les confinements, etc. Donc, là, c'était compliqué parce que nous, on se disait, si t'es chez toi, tranquille, peinard, on peut pas te payer alors qu'on a les enfants, on pourra pas travailler, etc. Du coup, on a proposé, est-ce que tu vas être confiné avec nous à la maison? Ah oui, 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 de toute façon, je n'osais pas vous demander, mais je voulais. Et le confort de l'avoir avec nous, mais en fait, c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait, de live-in. Et du coup, après, on était en appartement, donc pour l'instant, on est resté en live-out. Après, on a déménagé en maison. Et là, elle a vraiment son espace, donc elle a ses toilettes, sa salle de bain, sa chambre. Et en plus, il y a un peu… c'est quand même dans la maison, mais c'est derrière la porte de la cuisine. Donc, en fait, quand elle a fini sa journée, elle est tranquille, etc. Et il y a la moindre frais, du coup. Donc, tout le monde était gagnant. Et là, du coup, elle est en live-in. Donc, elle commence à 7h, prépare les enfants pour l'école. Voilà, nous, on a le bisou du au revoir. Elle les prépare, ils vont à l'école. Ensuite, pendant qu'ils sont à l'école, fait un peu le ménage, etc. Donc, même le ménage, je le fais plus. Depuis que je suis ici, je n'ai pas repassé en vêtements. Juste pour vous dire à quel point c'est extraordinaire. Et du coup, quand les enfants reviennent, elle s'en occupe, le goûter, et nous, on reprend le relais après pour le coucher, etc. Voilà.
Mais merci de le dire, parce que… alors, c'est peut-être un biais aussi, du fait que nous, on regarde beaucoup les entrepreneurs américains, et parfois, on se dit, mais comment elles arrivent à tout faire quand toi, tu es une maman qui…
Qui récure les toilettes en même temps, qui doit aller chercher les enfants, qui doit faire à manger, et gérer ton entreprise.
Si j'avais j'aurais pas du tout les mêmes possibilités. Et c'est vrai que cette aide-là, d'avoir un adulte supplémentaire, je crois que je vous entends plus.
Ah bon ? Nous on t'entend. Bon. Ah ok,
alors,
super.
Alors vous parlez plus, vous êtes juste ça.
Non, mais c'est comme ça. On voit tes paroles. Donne-nous tous. Je prends une nanny. Ça me coûtait hors de prix.
En France, laisse tomber.
Un confort, vraiment. Et vraiment, si j'étais en France et que… à l'époque, en fait, finalement, c'est pareil, il y a des aides, pour les aides ménagères, etc., mais on n'est pas au courant. Par exemple, à partir de 2 enfants, tu peux avoir, en fonction de ton quotient, de 4, etc. Et tout. Et il y a plein de mamans qui, si elles étaient au courant de ça, franchement, ça leur faciliterait la vie. Et au final, même si tu payes quelqu'un 10 €, 15 € l'heure, même sur le bon coin, tu peux trouver une femme de ménage qui vient 15 € l'heure, etc. Mais ce temps, cette qualité que tu vas gagner, ça les vaut. Et peut-être que c'est mieux que, je sais pas, par exemple, 3 abonnements à Amazon Prime, à Netflix et à je sais pas quoi, Hulu ou je sais pas quoi. Peut-être que tu prends juste Netflix et ce montant, tu le mets dans la femme de ménage. Et tout de suite, c'est bon. J'ai plus, c'est 3 heures que je faisais pour ça, je peux les passer pour mon business ou passer du temps de qualité avec mes enfants, etc. Et c'est vrai que nous, ça nous permet de souffler. Et c'est vrai que souvent, je dis ça à mon mari, je dis, s'il n'y avait pas de nanny, je pense qu'on serait divorcés, quoi.
Et tu culpabilises pas au quotidien de les, tu le culpabilises pas, toi, au quotidien, de te dire, parce que tu sais, sur les réseaux, t'as ce truc un peu le même shaming où, même entre nous, même pas moi personnellement, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui font du même shaming, mais même s'ils ne savent pas que c'est un terme qui existe. Mais toi, tu culpabilises pas du tout de dire, moi, mes enfants, il y a une nanny qui s'occupe d'eux au quotidien. T'es OK avec ça?
Parce qu'en fait, l'éducation, c'est quand même nous qui la faisons. Et elle n'est pas là tous les jours, elle a des jours off aussi.
J'espère.
Elle se repose. Il y a des jours où on les a du matin au soir, même quand elle est en congé, etc. Et moi, au contraire, je trouve que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus sereine avec mes enfants parce que j'ai plus cette charge de le ménage, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça, vite, vite, vite. Même le moment où on les récupère, c'est fluide, c'est cool. On fait le dîner, parfois le bain, etc. et tout. Et c'est tranquille parce qu'il n'y a pas tous ces trucs un peu négatifs. Le ménage, dire que c'est une passion, moi, j'y crois pas trop, les gens qui disent ça. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec ce même shaming, etc. D'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai fait un carrousel sur le fait que c'est bon, le mot même preneur, je peux plus. En fait, on dit pas date preneur. Mais ce mot, il m'agace, mais comme pas possible. T'es entrepreneur, t'as juste valeur et t'as pas besoin de préciser que t'es aussi maman. Parce que, toutes les femmes qui sont salariées, qui sont employées, qui sont aussi mamans, elles disent pas qu'elles sont emplemèmes, c'est pas le mot qu'on pourrait inventer. Et pourtant, c'est pareil. Elles travaillent, elles aussi. Et en même temps, elles sont entrepreneuses. Donc, on doit être reconnues aussi, pas que pour le rôle de mère. Et ça fait un peu le truc, je suis une warrior, moi, je suis maman, et en plus, entrepreneur. Ouais, super. Mais, Voilà quoi.
Moi, je suis totalement, d'accord avec toi parce que Mumpreneur, c'est quelque chose que nous, on n'a jamais voulu activer sur les réseaux, mettre dans nos vlogs, Mumpreneur, etc. Parce que, c'est, oui, comme tu dis, on ne dit pas date preneur. Pourquoi nous, on devrait le dire? Mais la vérité, c'est qu'aussi, être maman et entrepreneur, souvent, la charge mentale du quotidien et de la gestion d'une vie familiale, c'est souvent sur les épaules de la maman. Et que le père, il a moins. Et donc, c'est vrai que, par exemple, moi, si je prends mon cas, aujourd'hui, Samuel, qui est le père de ma fille, il est entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur. Mais lui, il a sa fille une fois tous les 15 jours. Moi, je l'ai toute la semaine. J'ai qu'un week-end tous les 15 jours seule. Ouais. Donc, du coup, moi, la charge professionnelle et la charge de ma vie personnelle, elle est beaucoup plus amplifiée que la sienne.
C'est-à-dire que lui, il a la possibilité, quelque part, de pouvoir travailler sur son entreprise au quotidien. Quand nous, à 17h, il faut aller chercher notre fille. Après, le lendemain matin, il faut l'amener à l'école. Il faut laver les dents. Et en fait, parfois, ça fait un peu vriller le cerveau.
Mais c'est vrai que moi, ce que j'entends dans ton histoire, c'est que aussi, moi, j'ai ce truc de pas demander de l'aide. J'ai moins ce truc à demander de l'aide, alors que je trouve que c'est un défaut des femmes aujourd'hui. Ouais. C'est qu'on veut... Dans ce cas, il faut faire un choix. Soit tu restes avec tes enfants et tu dis « Ok, moi, je suis mère au foyer et je l'ai décidé. C'est ok avec moi, je kiffe ma vie. » Soit je veux créer mon entreprise. Je veux être salariée à faire des horaires pas possibles. Et dans ce cas, on ne peut pas être partout sur tous les fronts.
Il faut être aligné avec son choix.
Donc, c'est soit je fais ça, soit je fais ça. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas vouloir demander d'aide. Et au bout d'un moment, tu es là... Mon cerveau, j'en peux plus. Et t'arrives au moment où tu dis, j'en peux plus. Ça, c'est dommage. Exactement. Et donc, tu fermes les entreprises.
Après, quoi. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand on dit, ah, mais toi, t'as pas honte de dire que t'as une nanny ou machin ou truc. Bah non, parce que moi, je sais que l'éducation des enfants, c'est moi qui leur transmets les valeurs, etc. Et je passe du temps avec eux et que on verra à l'avenir ce qu'ils diront, s'ils me reprocheront des fois d'avoir travaillé ou autre. Mais pour moi, voilà, on peut pas être maman au foyer en même temps entrepreneuse ou salariée, ce n'est pas possible. Le calcul, il est pas bon. C'est ça que quand on va travailler, les gens font garder leurs enfants. Et si c'est comme ça quand on est salarié, quand on est entrepreneur, c'est exactement la même chose. Et moi, j'y crois pas, ces mamans. Je pense que c'est possible peut-être plus dans le service aussi que dans le produit. Parce que par exemple, dans la formation, c'est vrai que là, j'ai compris que c'était très magique. Je comprends pourquoi tout le monde vend des formations de tout et n'importe quoi. C'est qu'au final, tu travailles dur le temps de faire ta formation. Et encore, parce qu'il y en a, il faut des formations en 2 semaines, des formations un peu bullshit, voilà, comme on dit. Et ensuite, il faut juste être bon. Si tu as un super copywriter et que, même avec ChatGPT aujourd'hui, en 10 minutes, tu peux faire une page de vente, et du coup, après, dès que tu as mis tous les systèmes en place, la newsletter, les machins, etc., des choses, elles sont vraiment automatiques. Donc, du coup, là, oui, peut-être que tu as le temps quand tu es dans l'infoprenariat, tu as probablement cette possibilité d'être maman quasiment au foyer et en même temps avoir tes revenus grâce à tes formations, tes coachings, etc. Mais en dehors vraiment de ce service-là, l'infoprenariat, moi, je ne sais pas comment les gens y font. C'est pas possible.
Non, c'est pas possible parce que c'est être maman, c'est un temps plein.
Bah oui.
Vu que les mamans au foyer, elles sont pas estimées à leur juste valeur, mais c'est un vrai temps plein d'être maman au foyer, d'éduquer des enfants, de faire toute une gestion de maison. Et être entrepreneur, c'est un temps plein. Être salarié, c'est un temps plein. Donc, il y a des choses, donc tu t'essouffles. C'est vrai que nous, on a tendance à s'essouffler parce que nous, on a ce truc où on a du mal à demander de l'aide ou à faire comprendre mais il faut, c'est important.
Ça change la vie, vraiment. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, dans les cultures africaines subsahariennes, par exemple, quand la maman, elle accouche, pendant 40 jours, c'est une princesse. Parce que, elle vient de sortir un être humain de son corps, quand même. Tout ce qui arrive, le chamboulement des hormones, etc. Et tout le village, tout le monde est là. Et nous, c'est vrai que, par exemple, les Maliennes, la plupart du temps, quand on accouche, ensuite, pendant ces 40 jours, on va chez notre maman. Et c'est elle qui s'occupe. En fait, la femme est complètement reposée, etc. Et toute cette pression ne porte pas sur ses épaules. À contrario du modèle occidental et français que je connais, où la nana, elle vient d'accoucher. 2 mois et demi après, il faut qu'elle retourne au boulot parce que le congé parental, machin, je sais pas quoi. Le père, il a 1 semaine et après, il retourne bosser. Donc, elle se retrouve toute seule avec un gamin, les hormones, le chamboulement, la maison qui est pas rangée, le mec qui rentre. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait, etc. Et du coup, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est hyper important de demander de l'aide. Et de reconnaître ça. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a toujours ce truc de on doit être partout, on doit être des super femmes, on doit rester sexy, mais en même temps on doit rester, on doit pas oublier aussi qu'on est une maman, donc on doit être à l'écoute de son enfant. Attention, éducation positive, faut pas dire ça, faut pas faire ça. Et en plus de ça, il faut rester une femme, faut rester sexy pour son compagnon, machin, etc. Et ensuite, faut faire des bons repas parce que les picards c'est pas bien. Et toute cette charge mentale, tout ça, si t'écoutes tout, c'est pas possible. En fait, en 24 heures, ça tient pas. Voilà. Si on a 48 heures dans une journée, ok, mais en 24 heures, c'est pas possible.
Mais t'as raison. En plus, nous, on a grandi, enfin, on a passé 6 ans en Afrique. Donc, 6 ans en Afrique, c'est vrai que notre mère, elle nous disait, parce que tout le monde dit, mais comment elle faisait ta mère avec 3 enfants aussi rapprochés, petits, parce que notre mère aussi, elle avait ce côté où elle faisait pas mal de choses en Afrique, etc. Mais elle disait toujours, mais en Afrique, ce qui était génial, c'est que comme toi, nous, on avait...
On est né au Cameroun. Notre mère, c'est pourquoi elle a voulu retourner en Afrique des années plus tard quand on était adolescente, parce qu'on est né au Cameroun, des jumelles, elle avait déjà accouché 14 mois plus tôt de notre frère. Elle avait notre sœur qui avait 13 ans à l'époque où on est né. Donc elle avait 4 enfants à gérer, mais nous on avait tous les jours notre tati, qu'on appelait notre tati, qui venait tous les jours à la maison, parce qu'il y a des femmes aussi qui vivaient sur place, mais nous, notre mère, elle n'avait pas fait ce choix-là. Mais tous les jours, elle venait. Et du coup, notre mère a dit, moi, j'ai eu 4 enfants, mais 4 enfants que j'ai pas eu à gérer toute seule, 4 enfants, pendant que votre père bossait. Et elle, était aussi, elle travaillait aussi, notre mère.
Exactement.
Donc, plus le jardinier, plus une personne qui s'occupe du ménage.
Oui, c'est ça. Et c'est, à Dubaï, c'est ça, bah, comme un peu en Afrique, où en fait, les gens ont des aides, même quand ils sont pas très, très riches.
Oui.
Nous, par exemple, au Mali, bah, nous, on est dans un village qui est pas, voilà, quoi, c'est pas la capitale. Et même les familles qui sont pas très, très riches, après, ça coûte rien du tout aussi, hein, pour là-bas, le SMIC, je pense qu'il doit être à 100 euros, par mois. Avec 100 euros, tu vis là-bas, tu manges, tu nourris ta famille, etc. Donc, elles sont payées, par exemple, 100 euros par mois. Là, quand on est français, on se dit, oh, mais 100 euros, mais comment c'est possible? Mais en Afrique, dans le village où mes parents vivent, avec 100 euros, tu nourris toute ta famille, hein, c'est clairement. Et ben, du coup, et bah, t'as cette femme, voilà, qu'on appelle les comé, donc un peu, en plus, si on le traduit en français, c'est un peu les esclaves, hein, entre guillemets. Et du coup, bah, qui sont là à la maison. Mais en fait, c'est le mot, il a pas été changé, on dit.
Bah, nous, on appelait ça boy aussi, hein, et c'était pas terrible non plus,
voilà, les
boy,
bonnes, etc. Ouais. Et après, c'est vrai que aussi, même dans les familles très riches, par exemple en France, à Paris, etc., bah, la plupart, ils ont, hein, ces nannies, ces gouvernantes, etc. Par exemple, il y a juste allé dans un square à Paris, 16e, 17e. Il faut regarder, les enfants, la plupart, elles sont avec des mamies, des mamas africaines, beaucoup les Congolaises d'ailleurs, qui font ce métier-là. Donc, même en France, bah, il y a ça, quoi. Et au final, où, quand tu as atteint un certain niveau de vie, bah, tu comprends que bah, c'est très bien d'avoir, encore une fois, ces aides, parce que tu ne peux pas tout faire. Et c'est vrai que bah, quand tu t'appelles, par exemple, Jeff Bezos, tu gères une entreprise qui vaut des milliards, etc., et en même temps, tu veux t'occuper de tes enfants, etc., bah non, lui, c'est sûr que, pareil, il doit avoir une nanny, il doit avoir un machin, etc., et c'est ça. Et le secret de la plupart des business women américaines, etc., parce qu'elles ne le disent pas forcément, mais la plupart ont bah, des nannies, etc., bah, comme Beyoncé, Kim Kardashian, etc., elles ont toutes la personne qui gère, entre guillemets, les enfants. Ils ont aussi des cuisiniers, ils ont aussi... Et c'est comme ça.
Non, c'est vrai, mais il faut le normaliser. Disons que le problème, c'est que comme ce n'est pas dit ouvertement qu'on a qu'on peut avoir des aides et on a le droit de demander des aides si on a envie de parce qu'on s'épanouit dans notre travail, on a le droit de demander de l'aide. Sinon, on peut pas. C'est vrai que sinon, c'est la route directe vers le burn-out.
C'est ce truc de voilà, t'es pas une vraie femme. Hein, bah, si, t'es pas une vraie maman. T'es pas une vraie femme, etc.
Bah, ouais, non. C'est vrai.
En fait, moi, par exemple, le ménage, j'arrive pas à concevoir. Après, il y en a peut-être qui sont vraiment fans et passionnés du ménage, et tant mieux pour eux. Mais je peux pas concevoir qu'on me dise, oh maman, j'adore passer la serpillière, j'adore faire ci, j'adore faire ça. Ce temps-là, si tu peux le faire pour autre chose, bien sûr. On peut être maniaque, on peut aimer, mais c'est bien. Si quelqu'un d'autre le fait, en plus, ça crée de l'emploi, etc. Vraiment, voilà, moi, j'y vois aucun mal et je l'ai compris, bah, autant dans l'entreprise que dans la vie personnelle, que c'est très bien de déléguer quand on a des personnes compétentes, de confiance. Voilà.
Je suis d'accord. Tout à fait. Et quelles sont tes routines? Si tu peux partager avec nous des routines ou des rituels, des habitudes que tu fais, toi, au quotidien, qui te permettent justement d'avoir cette vie de, bah, de femme, toi, Sokona, de mère, d'épouse, d'entrepreneur. Est-ce que tu as des petites choses ou pas du tout?
Non, pas du tout, comme je l'ai dit dans ma formation, où j'explique qu'est-ce qu'on doit faire sur le papier, mais que moi, je ne le fais pas.
D'accord.
Et c'est comme ça. Je pense que oui, c'est vrai que moi, je suis... en fait, je fonctionne vraiment par bloc et j'utilise la méthode de... J'arrive jamais à le prononcer le nom, donc je ne vais même pas le dire. Mais en fait, c'est le truc de urgent, important. Pas important, pas urgent. Et je fonctionne plus sur... au lieu de dire tous les jours ou etc., je vais fonctionner un peu sur... voir, avoir une vision globale sur ma semaine, de dire dans cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de très, très important, très urgent. Des choses qui ne peuvent pas attendre, ça, je le fais. Qu'est-ce qui est important, mais pas urgent? Qu'est-ce qui n'est pas important, mais pas urgent? Et qu'est-ce qui n'est pas important, pas urgent? Et je classe un peu les choses comme ça et je fonctionne fonctionne par bloc. Je ne vais pas me dire oui, pile à 9 heures. Après, quand j'ai les rendez-vous, bah, les rendez-vous, ils sont calés dans le planning. Mais le reste du temps, en fait, j'ai ma to-do list de toutes les choses que je dois faire. Et c'est vrai que j'ai toujours les notes de mon téléphone où je rajoute aussi au fur et à mesure. Hein. Par exemple, bah, si j'ai une fuite d'eau, etc., bah, je le rajoute dans le truc de la to-do list. Et je sais que ça, il va falloir le régler, etc. Et au fur et à mesure, la to-do list, elle grandit. Il y a des choses qui s'effacent, etc. Et voilà, et je suis un peu comme ça. Je fonctionne un peu en to-do list, mais sans me mettre la pression et vraiment avec ce lâcher prise où je me dis, de toute façon, tout ce qui n'est pas hyper important et urgent, voilà, c'est pas grave hein, si c'est fait ouais. un peu plus tard, etc.
C'est la matrice d'Eisenhower, je crois, dont tu parles.
Oui, c'est ça, mais je ne savais pas le prononcer.
Okay. Mais sinon, toi, en tant que, quand tu te lèves le matin, etc., il n'y a pas des choses qui te font, que tu te dis, avant d'entamer ma journée, j'ai besoin de faire ça. Toi, tu sautes du matin au lit et t'es bim, bam, boum, c'est bon, je suis prête, ready to go, quoi.
Ouais, je démarre. En fait, ça dépend des feelings. Des fois, par exemple, bah, je suis dans le lit, j'ouvre les yeux et je vais perdre une heure à scroller sur les réseaux, quoi. Je sais pas pourquoi. Même je me dis, oh, j'ai fait une heure, j'ai rien fait, en fait. J'ai rien foutu. Après, je m'accélère. Après, d'autres fois, bah, j'ai un rendez-vous. Donc, non, c'est vraiment ma journée, voilà. Mais c'est vrai que j'avais lu, là, récemment, un livre et j'avais écouté aussi un audio qui était hyper intéressant de Jim Rohn, qui disait qu'en fait, on n'a pas finalement, et le livre, c'était l'effet cumulé de Darren Hardy. Et du coup, il disait qu'en fait, finalement, comment la journée va se passer, on n'a pas vraiment d'impact dessus, mais on peut avoir un impact sur comment on commence nos journées et comment on la finit. Et c'est vrai que sur le papier, j'ai trouvé ça très bien et j'aimerais bien mettre ça en place. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais d'avoir un petit peu une petite routine sur comment je démarre ma journée, comment je la finis, et après le reste, bon, bah, ça vient comme ça vient. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et pertinent. En effet.
Ah oui, pour moi, c'est important.
Mais moi, j'ai des phases, en fait. Des fois, j'ai des phases où je suis trop dans mon truc de mindset, blablabla. Donc, pendant un mois, deux mois, des fois, ça dure même plus longtemps. Je vais faire mon miracle morning, je vais me lever tôt, je vais être hyper bien, hyper truc. Et après, un moment, ça me saoule, j'arrête et machin. Et je ne me mets pas de pression, je culpabilise plus, je machin. Alors qu'avant, je me disais, ah, bah, c'est pas bien, bah, t'es pas un leader, machin. Je me mettais même, moi, des phrases négatives, des fois, dans ma tête. Et cette pression du développement personnel, du mindset, du machin, en fait, j'ai tout valsé, quoi. Et je prends ce qu'il y a à prendre quand j'ai envie de le prendre.
Ça aussi, c'est chouette de le dire parce que c'est vrai qu'avec toutes les vidéos YouTube qu'il y a eu pendant des années de ma routine, ma morning routine, les gens... Et on l'a fait aussi. Hein, donc, on est aussi dans ce côté de, d'avoir pu mettre dans la tête des gens des objectifs qui, nous non plus, en soi, la vidéo, c'est ma routine idéale, la routine, la morning routine idéale, celle que je préfère faire, mais je suis un être humain qui, comme toi, pendant parfois deux mois, bah, j'ai pas envie de faire de sport. Ouais. Mais dans ma morning routine, j'ai eu le malheur de dire que le matin, je me réveille et je fais du sport. Oui, ça m'arrive, mais il y a plein de fois où pendant trois mois, flemme, pas envie de faire de sport. Donc, la chose que je fais le matin, c'est de prendre mon portable et de scroller. Ouais. Et c'est vrai que quand il y a eu toutes ces vidéos, tout ce truc des vidéos YouTube, morning routine, etc., je pense que beaucoup de gens se sont dit, il faut tout le temps avoir une morning routine parfaite, alors qu'en vrai...
Elle est changeante.
Elle est changeante. Ça change, bien mais sûr. Parfois, tous les trois jours, toutes les semaines, tous les mois, aux saisons. Donc, c'est important de le dire aussi. Oui, parfois, nous aussi, on est le matin. On sait que ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qui nous fait du bien sur le moment. Donc, on le fait.
Bah oui, c'est ça. Et c'est toute cette pression, même dans la parentalité, où on a les trucs Montessori et compagnie, éducation positive. C'est super. Nous, on veut bien être de nos enfants, mais des fois, ce n'est pas parfait. On peut les mettre devant un écran. Moi, des fois, ça m'arrive de mettre Titouli ou autre sur YouTube et je ne culpabilise plus. En fait, c'est pas grave. Si ce temps-là, bah, l'enfant, il est tranquille, voilà. Après, tant que c'est pas tout le temps, c'est pas grave. Et moi, ça me permet, des fois, de dormir un peu plus longtemps. Bah ouais. Franchement, je suis KO et je le fais. Et j'ai aucune culpabilité. Alors qu'avant, oui, je pouvais en avoir. Et c'est vrai que il y a toujours ce truc de perfection. Et là, c'est un peu en train de changer. J'ai l'impression aussi où les gens maintenant veulent du vrai, du etc. On en a marre des influenceurs trop parfaits, etc. Et du coup, même les gens qui faisaient du contenu hyper lisse, hyper parfait, hyper je fais mon yoga, après truc, après je bois mon jus détox, après machin, même eux ils commencent maintenant à montrer un peu la réalité. Et c'est vrai que les gens maintenant ils en peuvent plus de ces trucs trop parfaits, trop lisses, et on sait que c'est pas ça la vie. Et on l'a vu aussi avec beaucoup d'influenceurs où on était sur des trucs, waouh, les coupes goal, coupes parfaits, machin et tout, et après ils te font un long post pour dire, comme vous l'avez deviné, bah non, personne l'avait deviné, nous avons pris la décision de nous séparer, machin, et là tu tombes des nues. Tu dis, oh là là, etc. et tout. Et parce qu'en fait, ils ont tellement montré. Et je trouve que c'est pervers, et même pour eux, parce que finalement, ils rentrent dans ce truc où tout doit être parfait. Et le jour où ils scrollent, bah voilà, pendant une heure, bah ils culpabilisent. Bon, maintenant, ça, ils vont jamais le montrer sur les réseaux parce que eux, ils ont l'image de la meuf cool, machin. Et je trouve que c'est hyper pervers pour tout le monde, en fait. Ça fait du bien à personne.
Complètement.
Voilà. Et c'est en train de changer un peu.
Ça change. Mais ça, je disais à Isadora la dernière fois, ça, ouais. C'est en train de changer parce que je pense que les gens, ils ont compris que tout ça, ouais. C'était de l'acting pour donner sa meilleure version de soi-même sur les réseaux sociaux, histoire d'attirer. Parce que c'est vrai que c'est plus joli dans une vidéo YouTube de voir la nana se lever. Oh,
déjà, et puis, tu vends quelque chose.
Et tu vends quelque chose.
Que ce soit ton image, quand t'es créatrice de contenu, tu vends quelque chose, que ce soit un produit. Donc, oui, c'est pas quand je vendais Snackies que j'allais faire. Moi, je vendrais un bouffon,
un Kinder Bueno, tu sais, alors que tu vends des snacks.
Bah, c'est ça. Bon, donc c'est exactement ça. En fait, c'est du marketing, hein, tout simplement. Marketing. Et les gens, bah, leur image, ils en ont fait du marketing. Et en fait, ils suivent tout ce qui fonctionne dans le marketing. C'est-à-dire que les ventes sont émotionnelles. Émotionnelles, c'est pas rationnel. Donc, l'émotion d'en vendre un truc, waouh, cette personne, en fait, j'ai envie d'être comme elle. Donc, bah, vas-y, je vais acheter sa formation à 5000 euros. Parce qu'en fait, bah, elle a l'air très reposée, très bien dans sa peau. Tout ce qu'elle dit, c'est super bien dit à chaque fois. C'est hyper pertinent, etc. Et bah, après, bah, voilà, on peut se laisser avoir facilement comme ça. Et voilà.
C'est vrai que c'est intéressant. J'aime beaucoup ta façon de. C'est vrai que moi, ma personnalité fait que j'ai besoin d'avoir des choses routinières parce que j'aime bien avoir des choses qui me. Tu vois, le soir, de lire ou de mettre la musique. Dès que je me réveille le matin, j'ai besoin de mettre de la musique. C'est vrai que j'ai des trucs comme ça. En revanche, comme toi, j'ai décidé de ne plus. Ça fait longtemps maintenant qu'on en parle, mais de ne plus avoir ce truc de me dire tous les matins, il faut lire 3 pages de son petit livre de trucs. Non, il y a des moments où j'ai envie de lire le matin, je me réveille, j'ai envie de lire.
Ouais.
Et des moments où j'ai envie de regarder mon téléphone. Il y a des moments où j'ai envie, j'ai même pas eu le temps de me réveiller avant ma fille, elle était déjà réveillée. Du coup, le matin, ça commence, avec une fille qui saute sur ton lit, t'es là, bon, bah ok, d'accord, on va se... Donc, tout n'est jamais linéaire, en fait, c'est la vie, quoi. Exactement. Donc, il faut se lâcher la grappe.
En même temps, c'est ça, c'est des hauts, des bas, c'est comme ça. Et du coup, vouloir tout cadrer, tout mettre dans des cases, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible.
Voilà. Est-ce qu'il y a un truc que les gens, comme toi, t'es quand même suivie sur les réseaux, comme t'as une certaine audience aujourd'hui, sur, notamment sur ton compte Instagram, l'émancipatrice, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens n'imaginent pas de toi?
Peut-être, c'est sûr, mais quoi, comme ça, je sais
est-ce
pas.
Que t'es, est-ce que les gens, est-ce que t'es une bonne cuisinière et que les gens ne savent pas que t'es une bonne cuisinière, parce qu'on te voit jamais cuisiner, par exemple?
On me voit jamais cuisiner?
Si.
Regarde ma story, elle a eu une food.
Food,
j'ai
mince.
J'ai plein de recettes africaines.
Ah si, en plus, je dis ça alors que j'avais fait tes pommes de terre rissolées à l'époque, mais ça date.
Ah oui.
Ça date, j'avais fait tes pommes de terre rissolées.
Elles sont bonnes, hein?
Elles sont hyper bonnes.
Mais c'est comme, c'est pas logique de son contenu.
Non, c'est pas logique, c'est vrai que c'est parce que... Mais ouais, voilà. S'il y a un truc... Toi, Isadora, s'il y a un truc que les gens, ils n'imaginent pas sur toi, ce serait quoi? Que les gens, parce que nous, on partage beaucoup de
partage tellement.
Bah, moi aussi, c'est ça.
Ouais.
Je me dis, peut-être l'organisation, hein, tu vois, par exemple, les gens, peut-être, ils doivent se dire, waouh. Et c'est vrai que je reçois souvent ce DM de, mais comment tu fais, comment machin, etc. et tout. Et au final, non, moi, je suis pas hyper bien organisée. Je sais que les choses qui doivent être faites, elles seront faites. Mais après, pour tout le reste, mais moi, c'est du vrai freestyle, quoi. Et c'est vrai que, voilà. Alors qu'on peut se dire, oh là là, mais attends, là, c'est 2 entreprises, vie de maman, vie de machin et tout. Tout doit être réglé à la minute. Alors que pas du tout, quoi.
Ah, t'as pas un template Notion hyper bien,
Mais pareil, oui, même tous ces trucs, tu sais, de tableau de visualisation et tout. Je sais que pour beaucoup, c'est hyper important et c'est bien et c'est super de le faire. Mais moi, je suis pas trop dans ces trucs-là. Je suis très factuelle, en fait. Et c'est vrai que même dans la formation, bah, dans la partie mindset, etc. et tout, j'explique tout ça. Je dis, bah, par exemple, moi, je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que pour beaucoup, je sais que c'est bien de mettre, de regarder, etc. Et moi, je crois que je suis très trop factuelle, ou je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et on peut penser qu'on se dit, ah ouais, son mindset qu'elle a, elle doit machin, truc, etc., alors que pas du tout.
Bah, moi, j'imagine bien que oui, si t'as une telle entreprise aujourd'hui, plus la formation, j'imagine que le matin, t'as ton petit truc sur ton PC avec le truc Notion hyper propre, hyper joli.
Et ben justement, en plus, j'ai fait une newsletter sur ça pour dire je n'ai pas d'outils. Parce que à chaque fois, j'arrêtais pas de voir, en fait, un moment, je sais pas, il y a une mode sur Instagram où tous les entrepreneurs, ils mettaient leur liste d'outils, donc soit en réel, soit en carrousel, etc. Et c'était toujours les mêmes, hein, Asana, Notion, machin, etc. et tout. Bon, certains avaient des liens affiliés en plus, donc on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas. Et du coup, bah moi, pour aller à contresens, et c'est vrai, en fait, j'ai pas d'outils, mon seul outil, c'est ça, mon agenda. En plus, moi, je suis toujours, à l'époque, papier, j'écris tout, en fait. Et après, je barre au fur et à mesure que c'est fait, mais c'est n'importe quoi. Et les notes de mon téléphone. Et c'est tout. Et tout ce qui est Notion, machin et tout, bah, des fois, je l'ai obligatoirement par rapport à mes prestataires. Par exemple, ceux qui gèrent les pubs, etc. Ils sont dessus. Donc, moi, je m'oblige à être dessus. Mais juste pour cette partie-là. Mais par exemple, pour organiser ma journée de boulot, etc. et tout, j'ai vraiment que l'agenda que je vous ai montré, là. Et en plus, voilà, où c'est un peu Bagdad dessus. Et voilà. Et j'ai pas d'outils. Et pourtant, bah, j'arrive à avoir une entreprise, même deux entreprises, etc. Et tout va bien, quoi. Donc, des fois, il faut arrêter de se mettre la pression. Et c'est vrai que même ces outils, des fois, juste à les comprendre, quand tu as la logique et tout, et que tu l'as compris et que c'est super, ça te fait gagner du temps. Mais pour beaucoup de personnes, finalement, ça ne leur fait même pas gagner du temps. Parce que le fait de comprendre les formules, les machins, en fait, tu n'arrives même pas, tu regardes des tutos sur YouTube, machin. Et tout ce temps, ces 25 minutes que tu as perdu pour une formule qui, au final, bah, tu vas l'utiliser une fois. Ben, en fait, voilà.
Merci, Sokona. Oui. Parce que Marisa, elle aimerait tellement... Comme on n'est pas organisé...
Ouais.
Non, il ne faut pas dire ça. Faut pas dire qu'on n'est pas organisé.
On s'organise. Moi, je trouve qu'on est organisé. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande de faire ou ce qu'on doit faire sont faits en temps et en heure, c'est toujours. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être fait... la veille, mais au moins le truc est fait. Mais c'est fait la veille. Marisa, elle a hyper envie. Très souvent, elle me dit, faut qu'on s'organise plus, faut que j'apprenne Notion, faut que j'apprenne ci. Et moi, je suis plutôt en mode, mais moi, je trouve que notre organisation qui est bizarre, moi, il me suffit d'un agenda. Et c'est vrai que cette année, on n'en a pas eu parce qu'on n'en a pas fait. Et ça m'a manqué énormément parce que moi, j'ai besoin que ce soit écrit sur un agenda papier.
Ah oui, moi aussi.
Mais à part cet agenda, moi, j'ai besoin. Moi, en fait, plus tu vas me mettre des trucs comme Notion ou quoi, je les aime, je trouve ça génial, j'adore les gens qui l'utilisent, mais moi, j'ai du mal à
m'enferme, ça nous enferme dans nos...
Exactement.
En fait, je n'aime pas trop écrire dedans, moi, personnellement.
En fait, je pense qu'il faut se dire, c'est d'être vers quelque chose qui nous est naturel. Et c'est vrai que moi, ce qui m'est naturel, c'est de prendre mon papier, un agenda le matin, ou le matin, ou peu importe, c'est pas forcément le matin, parfois ça peut être en plein milieu de la journée, je me dis, là, j'ai besoin d'écrire quelque chose. Ça m'est plus naturel que d'aller sur Notion. Exactement. Moi, je me suis rendu compte qu'à l'époque, j'avais foncé dans la vibe Notion, dans la vague Notion, comme tout le monde, mais je passais mon temps à travailler sur Notion, mais pas à travailler sur l'entreprise. Jamais. J'avais trop de temps à faire des tutos sur YouTube, comment faire un beau Notion avec un joli papillon sur le côté, un truc.
Voilà, c'est ça, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est exactement ça.
Mais j'ai fait ça. Et en fait, au quotidien, je me rendais compte que je n'étais pas attirée le matin en me réveillant pour aller voir mon Notion. C'est pas quelque chose qui me paraissait normal. Alors que prendre mon téléphone, d'aller sur mes notes, où moi je m'envoie aussi beaucoup de textos à moi-même, je me vois, j'ai un truc dans ma tête, je m'envoie un texto, ça me paraît plus naturel de m'organiser comme ça. Donc, Oui, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de faire les choses qui nous sont, revenir à soi et pas à ce qui est à la mode.
C'est pour ça que je dis merci Sokona, parce que moi je sais que notre naturel n'est pas d'avoir un milliard d'outils. Notre naturel, c'est de faire comme on fait depuis 8 ans maintenant. Et pourtant, ça ne nous a pas porté préjudice.
Oui. Et voilà, c'est ça. Et c'est exactement tout ça que j'explique dans la newsletter, justement, sur le fait que je n'ai pas d'outils. C'est exactement ça. Et c'est ça, en fait, il faut arrêter des fois de se mettre la pression ou faire ce que tout le monde fait. Si pour nous, ça ne fait pas sens ou ce n'est pas vraiment naturel, il faut laisser tranquille. Et de toute façon, tant que ça fonctionne comme ça, il n'y a pas raison de vouloir absolument changer pour entrer dans ce cadre, ce moule qui finalement ne nous correspond pas, quoi. Et c'est vrai que moi, par exemple, c'est ce que tu as dit et ce que j'avais dit aussi, c'est que tant que c'est fait en temps et en heure, après ce qui s'est passé avant, même si c'était 15 minutes avant ou 20 minutes avant, c'est fait en temps et en heure, c'est bon, zen.
C'est vrai.
Non, revenir à soi.
Oui.
Toujours. On le dit tout le temps dans l'alimentation. On le dit dans les émotions.
C'est vrai que c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Revenir à soi, même quand vous entendez des choses qui vous paraissent incroyables d'un coach, d'un truc, d'un nain. Est-ce que vraiment, revenez à vous. Est-ce que vraiment ça vous parle vraiment? Et n'oubliez pas aussi par rapport à toi, Isadora, c'est qu'on n'a pas dit, mais toi, quand tu as acheté la formation de cette personne-là, on était dans une émotionnellement parlant. On est dans une phase un petit peu down. Et il ne faut pas oublier que les gens parlent aussi à des personnes dans des périodes parfois de fragilité. Ils savent trouver le point qui vous rend un peu...
C'est ça. Mais c'est le copywriting, c'est vraiment ça. Finalement, c'est de la manipulation. C'est comme le livre « Vente et manipulation »,« Influence et manipulation ». C'est exactement tout ça qui t'explique tous les principes de vente, les biais cognitifs, comment, etc. Par exemple, il y a une des méthodes de copywriting qui est la plus connue, c'est la méthode PASS. Donc, c'est le problème. Donc, par exemple, la personne, ton problème, tu n'arrives pas à t'organiser. Ensuite, on va agiter le problème. Donc là, on va l'amplifier. Vraiment, on va te donner tous les exemples et à un moment, il y en a bien un qui va te toucher. Donc, ça va être, tu veux t'organiser parce que tu as compris qu'avoir un outil comme Notion, ça va te permettre de gagner du temps, etc. et tout. Tu veux plus te lever en étant dans le flou, machin, etc. et tout. Le fait que tu n'es pas organisé, ça te permet ça. Et on y va. On appuie, on agite, on amplifie le problème. On appuie où ça fait mal. Et après, solution, ma super formation, comment utiliser Notion. Grâce à cette formation, tu vas pouvoir, nanani, nanani, plus avoir si, nanana. Cette formation est faite pour toi, si. Et là, bah, tous les trucs, tu vas dire, c'est moi. C'est ça. Et c'est le billet cognitif de Darnell. Voilà. Et j'explique tout ça dans la formation. Au final, c'est un jeu et c'est le marketing, c'est les influences, c'est machin, etc. Parce que l'objectif, bah, de ces super formations qui vont tout aider, etc., c'est de vendre au final. Puisqu'il y a un échange commercial, c'est pas gratuit. Donc voilà, ou même quand c'est gratuit, bah après ça utilise le système de réciprocité. Donc je t'ai offert quelque chose gratuitement, un e-book gratuit, un machin gratuit, etc. Bah du coup, toi, inconsciemment, ton cerveau va se sentir redevable de moi. Et c'est le principe de réciprocité, c'est comme ça. Et tout le monde l'utilise. Et ensuite, bah quand moi je vais proposer une formation à je sais pas combien, bah ton cerveau va dire ouais, mais rappelle-toi déjà ce super e-book que t'avais donné gratuitement, et puis tout son contenu qu'elle donne gratuitement, et puis tu l'aimes bien, et puis etc. Bah c'est normal aussi d'arriver. Et bim. Et en fait, bah, ça s'est vendu grâce au principe de réciprocité ou des preuves sociales, etc. Et tout ça, en fait, c'est, bah, ça s'apprend, en fait. C'est de la théorie, c'est mathématique, c'est comme ça. Et tant qu'on en fait bon usage, ça va. Mais après, bah, il y en a qui, comme dans tout, hein, il y a de l'excès, il y a des personnes qui vont appuyer, qui vont profiter de ça, de ces leviers pour, bah, vendre leurs trucs, etc. Et voilà. Donc, c'est aux gens aussi un peu de se responsabiliser, de prendre du recul avec tout ça et comprendre aussi qu'une vente est émotionnelle. Hein. Si c'était pas de l'émotion, personne n'achèterait un iPhone à plus de 1 000 euros. C'est pas censé. Au final, ou un sac Chanel à 12 000 euros, mais où est le sens derrière ça? Et du coup, c'est juste de l'émotion, en fait. C'est ça. Une vente, c'est pas rationnel.
Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Quand on se disait qu'est-ce qu'on va faire après, quelle est la suite de notre aventure entrepreneuriale, parfois on se disait mais quel produit on pourrait créer. Mais le truc, c'est que maintenant qu'on a, après des années dans le marketing, justement, notamment des réseaux sociaux, où il faut quand même, en plus maintenant on est tellement nombreux d'entrepreneurs réseaux sociaux que il faut toujours activer le plus, être le plus visible. Donc parfois tu peux aller, alors pas nous parce que nous on n'a jamais allé hyper loin pour activer, nous c'est, on trouve ça bon, on le mange, vous l'achetez si vous voulez, mais quand même quand ça fait des années que tu es sur le marketing d'influence, que tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu te demandes mais qu'est-ce que je vais pouvoir encore vendre. Et de quelle façon, quand toi-même, tu ne crois plus à la vente, à l'achat. Enfin, comme toi-même, c'est très difficile pour moi, par exemple, d'acheter parce qu'une influenceuse va en parler. C'est compliqué parce que je me dis, elle en parle pour quelle raison? Est-ce qu'elle est intégrée dans sa vie? Est-ce que c'est parce qu'elle veut juste gagner sa croûte, comme tout le monde, en fait? Donc, parfois, on se le dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait. Qu'est-ce que tu veux vendre aujourd'hui qui peut changer encore un peu une vie et sans dire, ça a changé ta vie parce que, tu vois.
Mais moi, je pense que, parce que c'est justement ça le problème, c'est de penser qu'un produit change une vie. Ouais. Un produit n'est pas, on ne crée pas un produit parce qu'il doit changer une vie. Ça, c'est notre personnalité à nous qui pensons ça. Mais moi, j'ai acheté des bagues, je veux dire, ça ne m'a pas changé ma vie. C'est juste que ça m'a rendue heureuse. Tu sais, un produit qui te rend aussi heureuse, qui t'aide dans ton quotidien. Par exemple, les culottes menstruelles, ça ne change pas ma vie. En revanche, dans mon quotidien de femme, j'ai vu une amélioration de ma vie. Voilà. Donc bon.
Bah, c'est
donc
ça, en fait, tu réponds à une problématique. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi cette notion, elle est très importante, surtout quand on veut entreprendre, c'est que les gens, ils veulent toujours lancer un truc révolutionnaire qui n'existe pas, l'idée, etc., aller breveter un truc, un machin, etc. Alors que la plupart des entreprises qui fonctionnent, si on regarde, je sais pas, le top 100 des entreprises qui font les meilleurs CA, ça va être, beaucoup vont être un peu près dans la même niche. Donc, ça montre déjà qu'il y a de la place pour tout le monde et il n'y aura rien d'extraordinaire. En fait, on ne demande pas d'inventer la lune, c'est juste de répondre à une problématique. Et voilà, par exemple, l'exemple d'Amazon, comment ça a été lancé à la base, c'est qu'au niveau des libraires, je ne sais plus ce qui s'était passé. Et lui, il s'est dit, tiens, il y a cette problématique, je vais faire ça. Airbnb, c'était deux personnes qui ils cherchaient un endroit pour se loger. Donc, en fait, c'est juste s'enlever une épine du pied d'un petit problème qu'il y a eu. Comment on répond à cette problématique? Et voilà. Et par exemple, moi, SoCup, c'était ça, en fait. J'en pouvais plus des tampons, des serviettes. Et j'ai cru en ce produit parce que j'y croyais, etc. Et je l'ai lancé. Mais il y a des gens, même demain, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lancer une marque et qui va aussi cartonner. Ça va être exactement le même produit. C'est-à-dire que c'est juste répondre à une problématique et montrer en quoi le produit, il va apporter quelque chose. Mais il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose. Et surtout, le truc, c'est que si tu inventes quelque chose, c'est-à-dire que tu dois créer un nouveau besoin chez les gens et ils ne sont pas éduqués. Le public, il n'est pas éduqué à ça. Donc, il va te falloir beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, des investisseurs, etc. pour que cette nouvelle habitude, elle rentre dans la norme des gens. Et c'est ça qu'il y a plein d'idées excellentes qui ne fonctionnent pas parce que c'est des produits trop, trop innovants et le marché, il n'est pas là. Le public, il n'est pas encore là. Il n'est pas assez mature.
Ah, ça, c'est tout à fait hyper intéressant. Karine, elle dit ça tout le temps. Mais Karine, elle a vraiment cette vision. Notre grande sœur, souvent, elle dit, ce produit-là, il est top. J'adore. Elle dit, par exemple, il y a quelqu'un qui va prendre un truc au Japon. Il revient du Japon. Il dit, moi, j'adore ce produit. Il le ramène en France. Karine, elle va dire, oui, le produit est top au Japon. Parce que c'est ancré dans la culture japonaise. Ouais. C'est ancré dans la culture coréenne. Exactement. Mais quand tu le fais venir en France, voilà le travail qu'il va falloir sortir pour c'est pouvoir marché, rentrer. Mais non. Mais non,
bah comme la personne qui la marque de match Anatae, oui, il le dit aussi à un moment donné dans un épisode de podcast, je sais plus lequel, bah tout le défi,
oui,
c'est de faire entrer une habitude qui est le matcha dans un quotidien français quand nous notre habitude depuis des années maintenant des années, c'est le par exemple le café.
Oui.
Bah oui.
Va faire dire à quelqu'un pourquoi je devrais boire du matcha.
C'est pas dans notre culture à nous. C'est pas dans notre culture. Donc c'est vrai que c'est des défis qui sont plus importants. Et ça, faut c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Quand on veut faire un truc révolutionnaire, va falloir prendre en compte que ça va être un travail de ouf que de le faire ancrer dans.
Et qu'il va demander beaucoup de temps parce qu'il va falloir éduquer le marché. Si c'est pas quelque chose de très simple, c'est compliqué. Voilà. Mmh.
C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. C'est vrai que j'avais pas
faire
vu
un
ça.
Peu, entre guillemets, comme tout le monde, mais juste trouver une différence ou le positionnement que tu vas avoir qui peut se différencier ou pas. Hein. Parce qu'à chaque fois aussi, c'est ça. Il faut être différencié de tes concurrents, te différencier. Tu peux faire exactement la même chose, une marque de bijoux, et juste parce que tes bijoux, ils sont très, très beaux et que derrière, ton storytelling ou même rien va faire que quand même, tu vas réussir à vendre. Et il n'y a pas forcément besoin de ce truc d'avoir un truc unique qui te différencie, qui machin. On n'a rien inventé et la connaissance, elle est là. Et c'est pareil dans les formations où moi, souvent, je dis aux gens et même à mes élèves, etc. et tout, c'est que j'ai rien inventé. En fait, il n'y a pas un secret que je vais te donner qui va faire que tu vas cartonner comme moi, j'ai cartonné avec SoCup. Non, parce qu'en fait, le dénominateur, c'est toi l'indicateur le plus important. C'est toi, est-ce que tu vas vraiment passer à l'action? Est-ce que tu vas faire les choses? Est-ce que ton produit, finalement, il correspond vraiment? Et c'est ça, c'est-à-dire la formation, ça va être un plus, ça va être une aide, ça va être une feuille de route, mais elle ne va pas te changer. Et tous ceux qui te parlent de soi-disant « je te dévoile mon secret, je ne sais pas quoi, ultime, gna 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 », c'est que du bullshit. Il n'y a aucun secret, la connaissance, ça existe depuis des années, tout le monde fait la même chose. Et le seul truc d'une formation, c'est que ça te donne une structure, une logique et une certaine stratégie. Mais ce n'est pas dire que c'est que ça qui fonctionne. Il y a des gens, ils ne vont pas du tout suivre cette formation et ils vont cartonner. Et des gens, ils vont la suivre, ils vont rien en tirer. Donc, c'est comme ça. Et du coup, ça, c'est hyper important aussi que les gens l'entendent, que finalement, c'est pas, il n'y a pas un secret quelque part. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, où à chaque fois, on cherche un truc, le secret, le machin, le truc, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Voilà, c'est mathématique, en fait. Quand ça fonctionne pour les gens, c'est qu'ils ont fait certaines choses, etc. Et voilà, il n'y a pas un truc révolutionnaire qui fait que... voilà. Et surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression que tout le monde va devenir millionnaire parce que ChatGPT, tu as juste à lui demander « lance-moi un business, il va te créer ton business et tu n'auras rien à faire, juste à écouter ». Bon courage les gars. Et ceux qui vont s'en mettre plein les doigts, c'est ceux qui vont vendre des formations sur l'intelligence artificielle. Pas ceux qui vraiment vont compenser qu'ils vont être millionnaires avec. Tu vois, c'est dingue.
Oh, tu me tues. Non, c'est intéressant. Excuse-moi, t'as une question ou sinon on clôture avec ma petite question que j'aime bien poser.
On peut clôturer.
Et comme elle a dit que de toute manière elle aimait bien les, elle aime cuisiner. Donc si tu aimes cuisiner et que on estime que nous la vie est plus belle pour les gens qui aiment manger. Est-ce qu'il y a une recette que tu kiffes en ce moment que t'as envie de partager avec nos auditeurs ou un repas que t'as mangé récemment que t'as kiffé que t'as envie de reproduire. Enfin voilà, quelque chose. Qu'est-ce qui te fait plaisir à ton palais en ce moment?
Moi j'aime trop manger, donc il y a tellement de choses.
Bienvenue au club.
En fait, c'est quelque chose de hyper simple, c'est le gâteau au yaourt. La simplicité, mais on ne peut pas faire plus simple. Et en plus, à la fin, je suis tombée sur le Insta d'une nana réelle qui expliquait son secret. Voilà, il y a des secrets parfois. Et du coup, en fait, c'était de mettre le yaourt à la fin, en fait. Et pas le... En fait, d'habitude, on le met tout le temps au début puisqu'il sert de doseur. Et là, en fait, elle a mis le doseur du yaourt. En fait, le yaourt, elle le vide ailleurs. Comme ça, elle a le pot pour faire le dosage. Et en fait, elle le met à la fin. Et ça donne un moelleux, un onctueux au gâteau, mais qui est incroyable. Et cette recette est hyper simple. Et juste cette modification, ça a changé la recette. Et je suis très contente de pouvoir refaire des gâteaux parce qu'en fait, à Dubaï, on a un problème. C'est que la plupart des fours, ils sont à gaz. C'est très dur de trouver des fours électriques. Et les fours à gaz, c'est une catastrophe. Ça brûle, ça cuit. On ne peut même pas mettre les bonnes températures, etc. Et j'ai découvert le air fryer qui, au final, moi, je pensais que c'était une friteuse sans huile. À chaque fois, je pensais que c'était que
moi
ça.
Moi aussi.
Et au final, en fait, j'ai compris que maintenant, c'était un mini four, finalement. Et du coup, j'ai acheté un air fryer. J'ai pu refaire mes gâteaux yaourt. Et là, la vie est trop belle. Voilà.
Et ben je tenterai donc, parce que moi c'est vraiment le gâteau de yaourt. Je dois en faire une fois par semaine avec ma fille. C'est un gâteau facile avec les enfants. Ouais. La prochaine fois, je tente cette version-là.
Je t'enverrai la vidéo de la fille. Ah dommage, j'aurais pu donner son pseudo, mais je l'ai plus en tête. Mais je te l'enverrai.
Pas de souci. Et ben merci beaucoup parce qu'on a beaucoup appris.
Oui, c'est un super échange qui nous permettra à tous de vivre notre best life comme Sokona.
Voilà. Mais nous aussi, on peut vivre comme ça.
Donc merci beaucoup Sokona pour cet échange très riche et vraiment passionnant. Et merci pour ta générosité. On mettra le lien de ta formation dans la barre d'infos. Mais non, c'est une description dans les notes du podcast, on dit dans le milieu. Et également ton site internet Sokup et ton compte Instagram, l'émancipatrice. Super. Également. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ton quotidien d'entrepreneur, c'est là qu'il faut te suivre.
Top.
Et ben, merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée. Ouais, quelle heure est-il ?
Non, ça va. On a 2 heures de décalage.
C'est tout.
Oui, en été, c'est 2 heures.
D'accord.
Ah, là, il est 14h55 chez moi.
Ok. Ah, nous, c'est l'heure de manger.
Oui.
Ouais.
Bah, toi aussi, peut-être.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup. À très vite sur les réseaux parce que on te suit et on te voit, on te stalk.
Oui.
Et on se dit à très, très bientôt.
À plus. À
merci.
Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.